Mardi 27 septembre, donc, il est 7h.
7h, 9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, la colère gronde dans les rangs des jeunes soignants intérimaires. Le gouvernement veut encadrer plus sévèrement le recours à l'intérim dans les hôpitaux. C'est jugé trop cher. Explication dès le début de ce journal. Les petites communes rattrapées par l'envol des prix de l'énergie, l'électricité notamment. Alors comment faire? Faut-il augmenter les impôts, fermer certains services publics? Le maire d'une commune de l'Oise a choisi. Eh bien la ville ne paiera plus ses factures. Reportage dans un instant. En Italie aussi, les discussions ont commencé pour la formation du futur gouvernement. Giorgia Meloni devrait prendre le poste de Premier ministre. Le plus dur est à venir, trouver les hommes et les femmes pour occuper les postes clés de l'administration. Explication de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome dans un instant. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Promis juré, on ne dépensera pas un euro de plus, dit Bruno Le Maire. Le gouvernement a fixé l'horizon du budget 2023, contenir le déficit à 5% du PIB. S'il n'a pas levé le pied sur la dépense, il cherche aussi les économies. Exemple en matière de santé, l'exécutif veut mettre le holà sur une pratique très répandue dans les hôpitaux, le recours aux intérimaires soignants pour pallier l'absence de personnel. Premier visé, les jeunes médecins. Fini les missions d'intérim en sortie d'études, il faudra exercer sous un autre régime avant, et ça, eh bien, ça ne leur plaît pas vraiment, Yasmine Akatou.
Oui, la durée de cette restriction doit encore être discutée, mais les futurs médecins le vivent déjà comme une injustice. Léo Sillion est interne et président de l'Association des jeunes généralistes de France.
Pour beaucoup de soignants aujourd'hui, il y a une précarité, un salaire qui, pour 10 ans d'études, est miséreux, et on nous répond à la sortie, gare à vous. Si vous souhaitez avoir un tout petit peu d'aisance financière, moi j'ai beaucoup d'amis qui finissent leurs internats, dont leurs deux salaires ne leur permettent pas d'habiter ensemble, d'avoir un enfant, ils ne pourraient pas l'assumer financièrement. Je trouve ça dégoûtant.
Les gardes peuvent être payés plus de 1500 euros en fonction du poste. Selon Frédéric Valtoux, ancien président de la Fédération hospitalière de France, la fin de l'intérim pour une partie des médecins serait une bonne nouvelle pour les dépenses dans les hôpitaux publics et pour les patients.
On ne peut pas travailler qu'avec des médecins qui sont là pour quelques semaines ou quelques mois. Il faut que les médecins connaissent les équipes, il faut que les médecins même connaissent les patients. L'intérim est un fléau pour l'hôpital.
L'intérim, dans son ensemble et dans le viseur du gouvernement, des décrets pour plafonner la rémunération des médecins devrait être appliquée dans les prochains mois.
Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Autre motif de colère, l'obligation pour les futurs médecins d'effectuer une quatrième année d'internat dans des déserts médicaux. L'intersyndicale des internes annonce une mobilisation courant octobre. Elle pourrait déboucher sur un mouvement de grève.
Le gouvernement confirme sa volonté d'aller au bout de la réforme des retraites. Le calendrier et la méthode pourraient être dévoilés demain à l'issue d'une nouvelle réunion à l'Élysée. Alors une certitude déjà, l'emploi des seniors est au cœur des réflexions.
À quoi bon reculer l'âge de départ puisque les entreprises vous poussent dehors passé 55 ans, parfois avant même. Phrase souvent entendue, situation souvent rencontrée autour de nous. La France fait figure de très mauvais élèves en la matière, mais ça va changer, promet Elisabeth Borne. Une bonne nouvelle pour Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, espère juste que cet engagement sera tenu.
Vous êtes près de 45% des seniors qui partent à la retraite sans être en emploi. Donc c'est quand même énorme. Alors d'ailleurs, parmi les mesures, on va voir ce que le gouvernement a proposé, puisqu'il a l'air de vouloir se saisir du sujet, c'est une bonne nouvelle. Vous savez qu'en France, vous êtes senior à 45 ans, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc nous, on dit, considérons que la caractéristique senior, même si elle n'est pas très jolie, se place à partir de 55, parce que ça permet de concentrer les financements, les aides ou les soutiens à l'emploi des seniors à partir de 55 ans. Et on sait que c'est à partir de cet âge-là que les problèmes commencent. C'est pour ça que je ne sais pas quel âge pivot sera choisi, ça est en discussion. Mais très honnêtement, s'il n'y a pas en parallèle un plan hyper volontariste, et on l'attend de la part du gouvernement et pas qu'un index, pour garantir l'emploi des seniors, alors c'est un marché de dupes.
Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH avec Aurélien Fleureau.
On parlait du projet de loi de finances au tout début de ce journal. Les difficultés financières des villes commencent à se faire sentir. On en parlera avec Nicolas Bouzou d'ici un petit quart d'heure. Le gouvernement doit donc composer avec la détresse de certaines d'entre elles.
Oui, à Montaterre dans l'Oise, le maire est passé au stade supérieur du désarroi à la colère. La facture d'électricité de sa ville pourrait être multipliée par 4. Aucune marge de manœuvre et donc une seule solution, ne plus payer le surplus. Reportage Margot Faudéré.
Dans cette commune de 14 000 habitants, ancienne terre d'industrie, la facture d'électricité pourrait être multipliée par 4 l'année prochaine. C'est délirant, affirme le maire communiste de la ville, Jean-Pierre Bossineau.
Notre facture de 2022 est à 660 000 euros. Le risque, c'est que notre facture passe à 2,5
millions. Près de 2 millions d'euros en plus pour un budget annuel de 32 millions d'euros. Pas de marge, pas de gras, on est déjà à l'os, explique le maire, qui refuse de faire payer la note à ses administrés.
On a pris l'engagement qu'on ne toucherait pas aux impôts. La deuxième solution, c'est de faire des économies. Passez-moi l'expression, on va taper dans tous les services publics utile à la population. La restauration scolaire, le centre de loisirs, les sports, c'est pas acceptable non plus.
Je ne paierai pas, répète Jean-Pierre Bossineau, qu'importe les conséquences.
J'invite ceux qui auront envie de nous couper à venir nous couper. On les attendra.
Dans quelques jours, la municipalité devra signer le contrat pour 2023. Elle n'a pas le choix, mais elle ne paiera pas au-delà de 750 000 euros. Elle s'exposera alors à un risque de coupure sous 2 à 3 mois.
Reportage Margot Faudéré.
Allez, en Italie, la période qui s'ouvre va être entièrement consacrée à la formation d'un nouveau gouvernement après la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives.
La logique électorale la désigne comme la future première ministre. Elle pourrait s'emparer du fauteuil de chef du gouvernement dans un mois. Le temps presse, les marchés financiers ont déjà réagi à leur manière. Les taux d'intérêt de la dette italienne ont fait un bond de 15 points. Mais la constitution du gouvernement ne devrait pas être un problème, Frédéric Michel. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome.
Oui, trouver des ministres, ce n'est pas le plus difficile. Du charisme, une notoriété ou de la personnalité, le casting peut facilement se dessiner. D'autant qu'on imagine que des têtes d'affiche, on pense à Matteo Salvini, ne voudront pas rester en coulisses. La gestion des égos sera sans doute un casse-tête. Mais la tâche la plus complexe, comme il y a quelques années pour le Front National en France, sera de trouver les hommes compétents qui occuperont les postes clés de l'administration, des hauts fonctionnaires, des directeurs de cabinet, des hommes de l'ombre qui adhèrent au projet du mouvement, acceptent aussi son histoire, l'étiquette post-fasciste du parti. Mais Giorgia Meloni, élue plus jeune députée italienne, plus jeune ministre sous Berlusconi, a des réseaux et peut profiter des cadres qui ont par exemple entouré les gouvernements de celui que l'on a longtemps surnommé « il cavaliere ». Mais avec quelle fidélité la nouvelle femme forte de la droite italienne doit forcément se poser la question. Mais a-t-elle le choix ? Fratelli d'Italia était encore il y a 4 ans un parti marginal en Italie.
Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome.
Et puis en bref, Paris se rapproche de Washington. Une rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden est programmée le 1er décembre à la Maison Blanche. Ce sera une visite d'État, la première en réception pour Joe Biden depuis son élection. Et puis une confirmation en Russie. La mobilisation partielle tourne au désastre pour le Kremlin.
Plus de 260 000 Russes ont quitté le pays en 6 jours. Selon les chiffres officiels, nombre de ces déserteurs cherchent à passer en Géorgie. Sur le plan intérieur, Vladimir Poutine continue de défier les Occidentaux. Le chef du Kremlin accorde la nationalité russe à Edward Snowden, lanceur d'alerte et ancien employé de l'agence américaine de renseignement.
Et confirmation également à propos du groupe Wagner. Evgeny Prigogine, réputé proche de Vladimir Poutine, reconnaît être le fondateur de ce groupe paramilitaire.
Oui, l'homme d'affaires a fini par avouer ce que beaucoup d'experts et de médias avaient souligné. Un aveu qui intervient quelques jours seulement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo. On peut l'apercevoir en train de recruter des volontaires pour aller se battre sur le front ukrainien. William Molinier.
À 61 ans, Yevgeny Prigogine est une des personnalités russes sanctionnées par l'Union européenne. Il est en outre recherché par le FBI américain qui promet 250 000 dollars à quiconque aiderait à son arrestation. C'est l'une des figures les plus troubles du système poutinien. Habitué à la discrétion, il n'apparaît que très rarement dans les médias. Alors forcément, ces deux sorties à quelques jours d'intervalle interrogent. C'est à minima le signe de l'existence de fractures au sein même de l'appareil russe, surtout au moment où la campagne de mobilisation en Russie patine. Le Kremlin a d'ailleurs reconnu hier des erreurs. Plusieurs observateurs analysent cette sortie de l'ombre comme la volonté de Prigogine de se positionner comme un potentiel successeur de Vladimir Poutine, voire même de rival dans la conduite de cette guerre, ce qui signifierait que le maître du Kremlin est bousculé par son aile radicale. Les ultranationalistes, dont fait partie le créateur de Wagner, digèrent mal la retraite russe en Ukraine et souhaitent une victoire la plus rapide possible, avec ou sans Vladimir Poutine aux commandes.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, l'édito de Nicolas Bouzou, vous disait j'alerte sur les finances des villes. Et puis mission DART, mission de haute précision. Ça s'est déroulé cette nuit à 11 millions de kilomètres de la Terre. On a détourné un astéroïde pour voir si ça marchait. Et bien ça fonctionne. Patrick Michel, expert des astéroïdes, est avec nous dans un instant.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Don't Look Up. Trump, Armageddon, Deep Impact, le cinéma nous en a déjà fait vivre quelques-unes absolument apocalyptiques. Et bien cette nuit a eu lieu la première vraie mission de défense planétaire contre une collision d'astéroïdes, histoire de ne pas finir comme les dinosaures il y a 66 millions d'années. Et nous sommes en ligne avec un spécialiste des astéroïdes qui est aux premières loges. Bonjour Patrick Michel.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Présentement, vous êtes à Washington pour cette mission DART, mission Fléchette en anglais. Alors c'est un acronyme aussi. Hein. Vous faites partie de cette mission depuis le début. Mission Haulancourt, comme toujours dans le spatial. Elle a commencé l'an dernier. Alors tout s'est joué, Patrick Michel, à 1h14, heure française, cette nuit. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Oui, alors en fait, dès une heure avant l'impact qui a eu lieu à 1h14, donc de la sonde DART de 570 kg qui a tapé à 24 000 km/h sur la petite lune appelée Dimorphos d'un astéroïde double, eh bien nous avons commencé à voir des images de ces deux petits objets. Hein. On a des mini-systèmes Terre-Lune, comme la Terre et la Lune, mais en petit, avec le plus gros qui fait 780 mètres de diamètre et le plus petit qui fait 160 mètres de diamètre. Et si c'est le plus petit qu'on visait, on n'avait aucune idée de ses propriétés, à part sa taille. On ne connaissait pas sa forme, on ne connaissait rien. On avait une idée de la forme du plus gros, qui a une forme caractéristique de toupie, un petit peu comme une sorte de sphère avec un bourrelet équatorial. Et c'est tout ce qu'on avait. Et à partir d'une heure avant l'impact, on a commencé à retransmettre en direct au public les images que la sonde nous envoyait, une par seconde, jusqu'à l'impact. Et là, on a été complètement bluffés. C'est-à-dire que dès le début, on a commencé, on était avec toute l'équipe dans la salle, et on se disait, mais c'est incroyable, la forme du plus gros n'est pas celle qui était donnée par les observations radar. Ça ressemblait pas tant que ça avec à une toupie. Et puis, le petit commençait à se distinguer. Forme un peu bizarroïde, jusqu'à ce que on commence à s'approcher. Donc c'est vraiment dans les dernières minutes avant l'impact que on commençait vraiment à voir la surface de cet objet complètement rempli de rochers, un vrai agrégat de roches liées ensemble, pas du tout une roche simple monolithique. Et jusqu'à la dernière image que l'on a eue.
Ah bah oui, bah racontez-nous justement, parce que en fait cette sonde kamikaze n'emportait pas beaucoup d'instruments, voire pas du tout, excepté une caméra. Qui vous a permis de voir l'objet se rapprocher de plus en plus rapidement, à des vitesses absolument folles, vous nous le disiez. Le tout filmé par un autre petit satellite qui s'appelle LysiaCube. Est-ce que vous avez d'ores et déjà pu voir les images, vous rendre compte de ce qui s'est produit réellement ?
Alors non, parce que le LysiaCube en fait attendait que l'impact soit fait pour commencer à prendre des images, et on ne recevra la première que demain. Donc la dernière image qu'on a, c'est 3 secondes avant l'impact, donc on est à 18 km de l'astéroïde, mais on a quand même une résolution de 9 cm, donc c'est vraiment tout petit, et on ne voit même plus d'ailleurs l'astéroïde dans le champ de la caméra, on voit le point d'impact, et là c'est absolument incroyable, ça nous confirme ce que les autres missions nous avaient montré, c'est-à-dire que ces astéroïdes ne sont pas des simples bouts de cailloux ennuyeux dans l'espace, ce sont des vrais petits mondes géologiques, c'est-à-dire que la surface que l'on voit, il y a des rochers de partout, ils ont des morphologies différentes les uns des autres, il semble qu'il y ait aussi un peu de poussière entre eux. Enfin, tout ça, c'est d'une complexité extrême. Et bien sûr, là, ce qu'on aimerait, c'est voir ce qui s'est passé sur la surface, comment cet objet a été transformé. Est-ce qu'on a laissé un cratère ? Est-ce qu'on l'a déformé ? On a plusieurs hypothèses. Et là, il faudra attendre la sonde de l'Agence spatiale européenne ERA, qui ira dans 4 ans sur la scène du crime pour rendre compte de l'impact de DART. Et là, on est doublement motivés. Parce qu'on ne s'attendait pas à une telle complexité sur la surface, et on a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé, d'autant plus qu'on est encore très étonné de la forme du plus gros, qui ne correspond pas à la forme attendue sur la base de notre compréhension des modèles, des astéroïdes doubles. Donc en fait, il y a en fait énormément de questions. Déjà, on va voir ce que les observations au sol, le James Webb télescope et le Hubble vont nous dire sur la différence de trajectoire de cette petite lune autour du corps principal dû à l'impact. Déjà, ça va être une information, mais il y a encore énormément de choses qu'on voudrait comprendre, y compris la structure interne de cet objet, parce que la surface est pleine de rochers, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et ça, c'est la mission spatiale ERA qui nous le dira.
Oui.
Et ça démontre vraiment...
C'est vous qui allez en être en plus le patron de cette mission ERA. Alors, on sent que vous êtes un homme heureux, Patrick Michel, parce que vous dites s'ils étaient ennuyeux, ces astéroïdes, vous n'y auriez pas consacré plus de 20 ans de votre vie. Mais alors, revenons aussi à des choses peut-être un peu plus sérieuses, quoique c'est extrêmement sérieux ce qui s'est passé, justement, ces astéroïdes. Parce que initialement, je parlais de ces films apocalyptiques, où on les voit foncer sur la Terre avec le risque de la détruire. À partir de quelle taille est-ce qu'on peut dire qu'un astéroïde représente un danger pour la Terre. Là, on était dans la simulation, dans l'entraînement, dans le test. Mais est-ce qu'un jour, ça peut vraiment représenter une menace concrète pour les habitants de la Terre ?
Oui, alors en fait, on a des tailles seuils pour définir les catastrophes à certaines échelles. Donc un objet de 140 mètres, qui est à peu près la taille de cette petite lune, mm-hmm. peut faire une catastrophe à l'échelle d'une région ou d'un pays. Et un objet de 1 km, c'est à l'échelle du globe. Alors, un truc qui est très rassurant, c'est qu'on connaît tous les objets plus grands que 1 km. Aucun ne nous menace sur le prochain siècle au moins, parce que nos calculs sont prédictifs à peu près sur un siècle.
Il y en a combien ?
Et leur fréquence d'impact étant en moyenne de tous les 500 000 ans, bon, on a quand même beaucoup de temps.
Il y en a combien au total ?
Les objets de 140 mètres ?
Ouais.
Pardon ?
Combien,
Il y en a un millier. Et on les connaît quasiment tous. Les objets de 140 mètres, il y en a peut-être 25 000 et on n'en connaît que 40%. Alors, il faudrait qu'on fasse l'inventaire des 60% restants. Mais là encore, les fréquences d'impact sont relativement faibles. C'est à peu près en moyenne tous les 10 000 ans. Donc, en fait, ce risque d'impact, c'est un risque très peu probable par rapport à tous les risques naturels auxquels on a affaire, les tremblements de terre, les tsunamis dont on est témoin nous-mêmes. Mais on sait qu'il peut avoir des hautes conséquences et que sur le long terme, de toute façon, il se reconcrétisera. Et il a un énorme avantage par rapport aux autres risques, c'est qu'on a les possibilités de le prédire et de le prévenir avec des moyens qui sont raisonnables, réalisables et qu'on est en train de mettre en œuvre.
Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'explosifs notamment, c'était juste une collision simplement.
Absolument. En fait, la sonde, quand elle arrive à 24 000 km/h, elle est bien au-delà de la vitesse du son du matériau dans lequel elle rentre en impact, donc elle explose. Indépendamment de ce qu'elle a dans. D'ailleurs, même si on aurait envoyé un bout de rocher à cette vitesse, il exploserait lui-même. Donc là, c'est simplement, on amène la masse et la vitesse de cette sonde et c'est ça qui va pousser l'astéroïde. Mais ce que je voulais dire, c'est que DART et ERA font partie de cette feuille de route qui va permettre d'offrir aux générations futures un plan robuste pour avoir à faire face à ce risque le jour où il se concrétisera, sans avoir à improviser, parce que comme on le voit, il faut du temps pour être prêt. Et donc, il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Il y a plein de défis technologiques. Il y a aussi énormément de connaissances scientifiques que l'on obtient parce que ces objets sont les restes des briques qui ont formé les planètes et ils nous permettent de tracer l'histoire du système solaire. Donc, en fait, à chaque fois qu'on étudie un astéroïde, que ce soit pour des raisons de protection de la planète ou pour des raisons scientifiques, on a besoin des mêmes connaissances. Et donc, ces missions-là vont nous enrichir aussi bien scientifiquement que sur le volet de la défense planétaire, ce qui est absolument extraordinaire.
Vous êtes intarissable sur le sujet, Patrick Michel, on l'entend. Tiens, j'aurais pu vous demander aussi si un jour on pourra les attraper, pour les exploiter sur le plan minier aussi, ces astéroïdes, ça c'est une vaste question. Mais nous n'avons plus le temps, en tout cas merci d'avoir été en ligne avec nous, Patrick Michel. On vous laisse à votre joie, à celle de toute votre équipe, pour la réussite incroyable de cette mission DART à la minute près. Rendez-vous compte, ça fait plus d'un an que la mission est partie et ça s'est produit à l'heure exactement qui était programmée, 1h14 cette nuit. Heure française. Merci Patrick Michel, bonne journée à vous.
Merci.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement vous présente l'édito Éco.
Allez, retour sur Terre, Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Ce matin, vous nous alertez sur les difficultés financières des villes.
Oui, parce qu'on parle beaucoup des entreprises et des particuliers qui font face à la hausse des cours de l'énergie, mais on oublie les villes, les municipalités dont la situation financière est difficile, parfois même insoluble. Alors, il y a deux éléments à comprendre. D'un côté, on a les effets de la hausse des matières premières, avec le chauffage des bâtiments publics, l'électricité, les transports scolaires, les prix de l'alimentation et donc la hausse des coûts des cantines. Eh bien, les villes font face à une flambée des coûts. Le choc sera particulièrement fort au 1er janvier, c'est le moment où les nouveaux contrats seront mis en œuvre. Avec la hausse des matières premières, le coût des marchés publics est aussi en forte hausse. Le prix d'un trottoir ou d'une route, ça n'est plus du tout le même qu'il y a un an. Et puis ensuite, il y a l'augmentation des salaires. Parce qu'on l'oublie, mais l'État a décidé d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 3,5% à partir du 1er juillet 2022. Alors c'est très bien, c'est formidable pour les fonctionnaires. Simplement, l'État a pris une décision unilatérale qui ne concerne pas simplement ses fonctionnaires à lui, mais aussi les fonctionnaires des collectivités locales. Je vais prendre un exemple très concret, Dimitri. Prenez une ville moyenne comme Louviers, c'est en Normandie dans l'Eure, un peu moins de 20 000 habitants. Les hausses dont je viens de vous parler représentent une augmentation de budget pour la ville de 500 000 euros, que le maire va essayer de ramener à 400 000 en faisant des économies sur l'énergie, en renégociant des contrats avec des prestataires ou en jouant sur la rémunération des élus.
Ouais, ça fait 200 euros de plus par habitant quand même, l'air de rien. Bon, et l'État n'aide pas les villes ?
Non, alors l'État prend des décisions pour les autres. J'ai cité l'exemple du point d'indice des fonctionnaires. Il prend prend des décisions pour les collectivités locales qu'il traite comme des obligés. Et ensuite, alors il essaie parfois de les aider, mais mal. C'est un système ubuesque à la française. Hein. Notre organisation bureaucratique est centralisée, avec un statut unique pour tous les fonctionnaires, empêche les villes de gérer, par exemple, leurs ressources humaines comme elles l'entendent. Concernant l'énergie, l'État avait promis de compenser les plus petites communes à hauteur de 70% de la hausse de la facture, mais le décret d'application n'est toujours pas pris. Personne ne peut dire quand et comment il le sera. Bref, c'est une désorganisation complète.
Ouais, Louvier, c'est... Non, ça fait 20 euros de plus par habitant, pas 200, ouais. Je me suis trompé. Mais enfin, est-ce que les villes, face à la flambée des coûts, vont devoir augmenter les impôts ?
Écoutez, les règles dictées par l'État laissent peu de marge de manœuvre aux maires pour diminuer leurs dépenses. On touche vraiment aux limites du centralisme à la française. Donc oui, on aura sans doute une hausse des impôts locaux. Alors, la taxe d'habitation, elle disparaît complètement en 2023. Mmh. Ça a été confirmé dans l'annonce de budget par Gabriel Attal hier. Mais on risque d'avoir une augmentation assez nette de la taxe foncière. Je vais vous dire, Dimitri, je ne jette pas la pierre aux maires. La plupart sont parfaitement conscients des problèmes de pouvoir d'achat des habitants. Ils ne veulent pas les assommer avec des impôts. D'ailleurs, pour moi, vu les circonstances, les maires qui continuent d'investir et qui n'augmentent pas les impôts sont des héros. On devrait parfois célébrer nos élus plutôt que les critiquer jour et nuit.
Il y a eu cet appel de Bercy lancé par Gabriel Attal dans le journal du dimanche aux maires. N'augmentez pas trop la taxe foncière, s'il vous plaît, pour les Français. Voilà, mais bon,
évidemment,
on n'est pas payeur. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, c'est le journal permanent. Alban Le Prince.
Une visite d'État le 1er décembre prochain aux États-Unis pour Emmanuel Macron, la première sous Joe Biden, pour témoigner, selon la Maison-Blanche, de la profondeur et de la vigueur de la relation entre les deux pays. La France condamne fermement la répression violente des manifestants par l'Iran. Alors qu'un vent de révolte secoue le pays depuis le décès d'une jeune femme arrêtée car une mèche de cheveux dépassait de son voile il y a plus de 10 jours, selon une ONG, 75 manifestants sont morts. Et puis le gouvernement tranchera d'ici la fin de la semaine sur la méthode pour faire passer la réforme des retraites. En attendant, les textes budgétaires ont été présentés hier en Conseil des ministres.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Paul,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Il y a pile 200 ans, le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion perçait le secret des hiéroglyphes. Bonjour Louis Salé.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
100 ans plus tard, en 1922, c'est le trésor de Toutankhamon que l'on exhumait. Et en 67, au Petit Palais, à Paris, le public français découvrait pour la première fois 45 objets issus de la chambre funéraire du pharaon.
Oui, cette exposition a eu un succès monstre, pour ne pas dire pharaonique. 1,2 million de visiteurs pendant plus de 6 mois, séduits par la beauté des œuvres égyptiennes, comme cette dame au micro d'Europe 1.
J'ai aimé les vases, les bijoux sont des splendeurs. Et puis alors évidemment, la statue d'or de Toutankhamon, c'est une merveille.
C'est une véritable cohue. Interrogé par le journaliste François Jouffa, un policier témoigne de cette effervescence digne d'un concert des Beatles.
Parce que hier soir, vous étiez là
plus
en service.
Plusieurs milliers de personnes qui étaient là avec des cartes d'invitation. Ils se sont pressés, bousculés. On s'est même fait un peu chahuter. Mais enfin, au fond, l'exposition est très intéressante, mais c'est pas un combat de boxe.
Toutankhamon attire un public populaire, ce qui réjouit la commissaire de l'exposition, Christiane Desroches.
Vous avez une infinité de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'occasion, ni qui n'ont pas encore l'attrait du musée, et qui viennent. Ils viennent surtout parce qu'il s'agit d'un pharaon qui est entouré d'une sorte d'auréole de mystère. Et sa tombe, comme la plupart des tombeaux des Égyptiens, si elle nous a légué de très importants renseignements sur les rites funéraires, ne donne presque aucun détail sur la période historique.
Et Louise, si les Français sont ainsi fascinés par l'Égypte antique, est-ce que c'est grâce à Champollion ?
Oui, car c'est lui qui a donné naissance en France à un tout nouveau champ d'études, l'égyptologie. Avant lui, les hiéroglyphes étaient peu considérés par les archéologues. C'était de simples symboles païens, mais les combinaisons complexes que Champollion a su décrypter ont révélé des sons en fonction de la position des dessins. Le langage des pharaons n'a depuis plus de secret pour les égyptologues français, comme Christiane Desroches. Elle reçoit, en 1967, des lettres de petits visiteurs admiratifs.
Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants qui commencent toutes leurs lettres passionnées d'égyptologie, je voudrais devenir égyptologue. Quelle étude dois-je faire? C'est extraordinaire, et des gosses de 6-7 ans, ça va de 6-7 ans à 13 ans.
Cette exposition au Petit Palais a longtemps détenu le record historique de fréquentation, avant d'être détrônée par celle de la Grande Halle de la Villette en 2019, 1,4 million de visiteurs pour là aussi admirer le trésor de Toutankhamon.
Merci Louise Salé, l'Égypte des pharaons, la passion française de toujours. Allez, vous avez peut-être eu vent de ce classement plaçant les villes françaises très très bas en matière de sécurité. Dans le prochain journal, nous irons à Nantes, sous le choc après le viol d'une femme de 40 ans par deux Soudanais le week-end dernier, 7h27.
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
Il ira jusqu'au bout Emmanuel Macron et la réforme des retraites, un changement validé par sa réélection. Rappel formulé hier en Conseil des ministres, témoignage de seniors face à ce projet de report de l'âge légal dans un instant. Une affaire sordide à Nantes, deux hommes incarcérés soupçonnés d'avoir violé une femme en pleine rue. Ça s'est passé le week-end dernier, agression captée par la vidéosurveillance de la ville. Et puis la France condamne la répression des manifestations en Iran. Un vent de révolte souffle depuis la mort d'une femme arrêtée par le régime. Reportage au sein de la diaspora iranienne à Paris à la fin de ce journal. Le journal présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. La réforme des retraites, c'est pour quand? Emmanuel Macron hésite, dégainer l'article 49.3 ou proposer un projet de loi à part entière. Le calendrier non plus n'est pas clair. L'automne ou bien le début d'année prochaine. Énième réunion d'arbitrage demain. Le président convoque ministre et majorité à l'Elysée avant de trancher d'ici la fin de la semaine sur la méthode.
Alors du débat, il y en a aussi sur le fond de la réforme. Allonger la durée de cotisation ou reporter l'âge légal. Peut-être un panachage des deux. En tout cas, une certitude. Les Français devront travailler plus longtemps.
D'accord, mais pour faire quoi et dans quelle entreprise? Passer 50 ans, le défi, c'est le retour à l'emploi. Une inquiétude que ces seniors ont confiée à Nina Droff pour Europe 1.
Christine, 59 ans, est en recherche d'emploi dans le secteur du commerce depuis plus de 6 mois. Elle envoie chaque jour des candidatures, mais souvent sans réponse. Selon elle, retrouver du travail à son âge est un véritable parcours du combattant.
Sur certains postes sur lesquels je suis arrivée en finale, à 3 reprises, on m'a préféré quelqu'un de plus jeune et on me l'a dit, parce qu'on pouvait embaucher quelqu'un qui avait potentiellement 10 à 15 ans devant lui, ce qui n'est évidemment pas mon cas.
Un problème lié aux années qu'il lui reste à travailler, mais aussi à ses demandes salariales.
Trop expérimenté, trop cher. Il faudrait baisser ses exigences. J'ai vraiment l'impression qu'il faut faire la manche maintenant quand on a, comme moi, 59 ans pour trouver du boulot.
Un sentiment partagé par Marie-Claire, enseignante reconvertie dans le social, sans emploi depuis bientôt 2 ans. Elle craint qu'avec un âge de la retraite à 65 ans, sa recherche ne soit que plus difficile.
Dans ma tête, je n'ai pas l'aisance des jeunes avec informatique. Je n'ai pas l'aisance de quelqu'un qui vient juste de sortir avec son diplôme tout frais et plein de connaissances dans la tête. Je suis déjà considérée comme pas assez rapide, pas assez efficace. Si c'est le cas à 50 ans, qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un de 65 ans?
Marie-Claire songe même à se reconvertir dans un secteur en tension, comme l'aide à la personne, pour trouver plus facilement un emploi.
Nina Droff.
La réforme des retraites est exclue à ce stade du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Elle a été présentée hier en Conseil des ministres. Et dans ce texte, un paragraphe révolte littéralement les étudiants en médecine.
Oui, rallonger la durée du cursus. 4 ans d'internat au lieu de 3, c'est l'idée du gouvernement. Une dernière année de consolidation, je cite, où les futurs médecins devront aller en priorité dans les déserts médicaux. Une injustice pour le principal syndicat d'internes qui annonce une grande mobilisation pour le mois prochain.
Oui, des études de médecine longues, éprouvante et dès la première année, enfin, peut-être pas pour tout le monde.
Oui, l'université de Nancy est obligée de serrer la vis tout simplement aux petits nouveaux dans l'amphithéâtre. Téléphone portable, caméra et micro sont interdits. De la discipline pour empêcher la fuite des cours revendus à des prépas privés. Alors efficace, notre correspondante Mélina Fachin a vérifié pour Europe 1.
Du haut de l'amphithéâtre des premières années en médecine, deux hommes, des assistants d'enseignement, surveillent les rangs, s'assurent que le cours se déroule dans le calme. Depuis la rentrée, de nouvelles règles strictes s'imposent aux tout jeunes étudiants, comme Alexia, 18 ans.
Pas de téléphone, pas d'écouteurs, un scotch sur la caméra pour pas que les cours soient filmés, puis pas de photos.
Et ceux qui dérogent à la règle peuvent être convoqués chez le directeur. L'objectif de l'université, c'est de ramener le calme dans des amphis qui viraient parfois à l'anarchie, nous dit-on, et aussi et surtout d'empêcher la captation des cours, explique Cédric Bourrat, directeur des études de santé.
C'est pour éviter que ces supports de cours partent notamment dans les prépas privées, certaines prépas rémunèrent nos étudiants ou des étudiants des années supérieures pour pouvoir venir dans nos cours et redonner ces supports-là à nos à nos étudiants de première année et en leur faisant payer bien sûr très chèrement ces supports de cours.
Globalement, les étudiants ne semblent pas traumatisés par ces nouvelles règles.
C'est pas non plus très grave quoi.
Moi je trouve ça même normal en fait.
Plus déterminés à faire partie des 35% qui passeront en seconde année qu'à jouer les rebelles. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
7h35 sur Europe 1, 5 longues minutes de calvaire en pleine rue. À Nantes, une femme agressée et violée par deux hommes, deux Soudanais présentés à un juge et incarcérés. Agression samedi dernier que le procureur de la République a détaillé hier. Notre correspondant Charles Guyard a suivi cette conférence de presse pour Europe 1.
Peu avant 6h, samedi matin, les forces de l'ordre ont été avisées de ce qu'une scène d'agression sexuelle était en cours ici à Nantes.
Ici, c'est-à-dire tout proche du hangar à bananes au lieu des soirées festives nantaises. Les faits que relate le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel, font d'autant plus froid dans le dos qu'ils ont eu lieu en pleine rue et qu'ils ont été captés par la vidéosurveillance.
Cette femme se rendait chez une amie lorsqu'elle a été agressée par deux individus qui ont rapidement tenté avant de parvenir à commettre un viol à son encontre. La scène a duré au moins 5 minutes.
Plus de 5 minutes donc de calvaire pour la victime qui s'est vue prescrire 10 jours d'interruption temporaire de travail.
Il s'agit de faits de viol commis avec une particulière violence puisque la victime présente des traces de coups sur l'ensemble de son corps.
Trois hommes d'origine soudanaise en situation régulière et fortement alcoolisés ont été interpellés, dont deux âgés de 17 et 27 ans, identifiés comme les auteurs présumés de l'agression. Malgré la vidéo accablante, ils nient les faits. Ils encourent chacun 20 ans de réclusion criminelle pour viol en Réunion. Ils ont été placés en détention provisoire. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
À Marseille, la suite du procès du drame de Mias sans la conductrice du car scolaire.
Oui, décision actée par le tribunal qui a rejeté toutes les demandes de suspension. Nadine Oliveira, jugée pour homicide involontaire et hospitalisée depuis la semaine dernière, victime d'un infarctus.
Et puis, va-t-il tenir? Gaël Perdriau refuse de quitter son siège de maire de Saint-Etienne. L'élu LR, enfin ex-LR, il en a été exclu, est soupçonné de chantage à la sextape contre l'un de ses adjoints.
Des appels à la démission, il y en a pourtant eu beaucoup. Hier, les élus étaient réunis en conseil municipal. Réunion musclée avec une opposition remontée à bloc contre le maire. Même la majorité se fissure. Le récit de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Durant de longues minutes, les vagues de questions sur l'affaire n'ont pas cessé de déferler sur Gaël Perdriau depuis les rangs de son opposition.
Dites-moi que vous n'avez pas tenu ce genre de propos sur certaines personnes, insultants. Dites-le-moi les yeux dans les yeux, moi j'aurais pas de problème.
Ce que je vous dis, vous énervez pas comme ça.
Permettez-moi d'être énervée parce que je suis énervée pour tous les gens qui n'en peuvent plus des personnes comme vous, qui donnent une vision tellement dégradante des hommes politiques et des femmes politiques, et je veux pas être associée à ça.
Puis c'est un élu issu de sa propre majorité, Lionel Boucher, normalement un allié politique, qui passe à l'offensive demandant au maire de démissionner.
J'ai honte chaque fois que Saint-Étienne, par votre faute, est présenté comme une commune dans laquelle s'exerce au plus haut sommet des pratiques mafieuses. Je me sens trahi. Monsieur Perdriau, partez.
Dans les cordes et visiblement tendues, Gaël Perdriau réplique en se posant en victime.
Je vois bien que la chasse à l'homme est ouverte, que certains n'ont pas la patience d'attendre que la justice fasse son travail. Je demande à ceux-là de respecter la présomption d'innocence.
Gaël Perdriau reste donc à son poste, mais il n'apparaîtra quasiment plus désormais lors des manifestations publiques pour ne pas heurter les habitants, dont certains ont manifesté hier devant l'hôtel de ville. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
7h38, elle s'appelle Anané, Ghazal, Hadis. Ses prénoms, ce sont ceux des jeunes iraniennes tuées dans les rassemblements qui secouent le pays depuis 10 jours, depuis le décès de Mahsa Amini, arrêtée pour un voile mal porté. 41 morts, dit Téhéran, au moins le double, avance l'ONG Iran Human Rights.
La répression fermement condamnée par Paris ce matin.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو
Bella Ciao, que vous entendez, magnifique chant révolutionnaire, symbole de résistance, une reprise cette fois en perçant la langue de l'Iran. C'est une jeune femme non voilée qui l'interprète dans une vidéo partagée plus de 50 000 fois sur les réseaux sociaux et qui est devenue le symbole de la situation en Iran.
Ah ouais, ça craque de partout, hein, sur, en tout cas au niveau des images qui nous parviennent d'Iran. Merci beaucoup Roman Oké pour votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. À suivre justement l'édito international, secret de Polichinelle en Russie, Evgeny Prigojine, le cuisinier de Poutine. C'est son petit surnom, reconnaître le fondateur du groupe Wagner. Mais pourquoi est-ce qu'il sort de l'ombre maintenant, au moment où l'armée russe s'enlise en Ukraine? Le décryptage de Vincent Herouette.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Un livre, ça peut vous changer une vie. Et c'est pas Nicolas Caro qui va me dire le contraire.
Non, et pas ouais. Stéphane Carlier non plus, l'auteur de Clara Lee Proust, dont je vous parle dans un instant.
Il y a un livre qui a changé votre vie, Nicolas?
Oui.
Le Comte de Monte-Cristo.
Ah, voilà. Et Caroline Speller, dans un instant, les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a un jeu qui a changé votre vie, Caroline ? Super Mario ?
Non, Final Fantasy VII.
Ah, pas mal, pas mal. Et Vincent Hervouette avec nous, d'abord pour l'édito international. Vincent, y a-t-il un jeu vidéo qui a changé votre vie ? Non, un livre.
Je fais tout pour que ma vie ne change pas.
À Moscou, ce matin, un homme de l'ombre est en pleine lumière. C'est Evgeny Prigogine, homme d'affaires, réputé proche de Vladimir Poutine. Enfin, il y a plein de photos qui les montrent côte à côte. Il reconnaît, ce Prigogine, l'existence du groupe de mercenaires Wagner qu'il a fondé.
Oui, il le nie contre l'évidence, et le Kremlin aussi. Et désormais, bat les masques, il s'en glorifie. Il dit que les mercenaires sont des héros, un pilier de la patrie. Depuis 2014, ils ont combattu dans le Donbass, en Syrie, en Libye aussi, au Mali et en Centrafrique, où les para-français leur ont cédé la place. Ces chiens de guerre ont une réputation épouvantable. Ils se payent sur la bête tout un cortège de massacres et de pillages. Mais à écouter leur patron, ils sentent bon le sable chaud. Evgeny Prigogine n'a pas le nez trop délicat. C'est un ancien voyou qui a fait 10 ans de prison. Il a ensuite ouvert un restaurant. C'est ainsi qu'il a approché Vladimir Poutine, auquel il s'est rendu indispensable. Le cuisinier de Poutine, c'est le surnom. Il a fait fortune avec les marchés publics, des cantines, les crèches, les écoles, les casernes. Et il a fait carrière dans l'arrière-cuisine du GRU, le service de renseignement militaire. Il a monté des usines à trolls, des agences de désinformation. Il a aussi recruté une armée de 4000 hommes formés dans les camps des forces spéciales. Des unités d'assaut lancées en première ligne, mais sans existence légale. Une armée fantôme évoluant dans une zone de non-droit. Le Kremlin n'avait pas de compte à rendre. La guerre qui fait zéro mort, c'est une illusion qu'aiment tous les pouvoirs.
Mais alors désormais, c'est bas les masques. Hein.
On dirait que Prigogine est en campagne électorale. Il y a 8 jours, l'homme de l'ombre se fait filmer dans un pénitencier où il enrôle des tolards pour l'Ukraine. À la veille du week-end, autre vidéo, on le voit débarquer d'un hélicoptère et tenir à 3h du matin une réunion d'état-major avec des mercenaires qui somnolent. On s'étonne qu'il n'ait pas cousu des étoiles de généralissime sur sa vareuse. À quoi riment ces mises en scène ? Eh bien, l'homme d'affaires se montre indispensable, peut-être qu'il se place ou qu'il se protège. Mmh. On suppose une guerre des clans entre l'armée, les services secrets, le crime organisé. On spécule, on n'en sait rien. On imagine mal qu'il fasse cela sans l'accord de Vladimir Poutine. Au moins, en tout cas avec Wagner, les Russes voient des centurions et pas seulement des bidas en folie.
Ouais, vous êtes prudent sur l'interprétation en tout cas de cette reconnaissance de paternité de Wagner. Autre information qui nous vient de Russie, c'est ce chiffre. 261 000 jeunes russes auraient passé la frontière en 5 jours, Vincent. Chiffre officiel, hein, et ces jeunes fuient la conscription.
Chiffre obligément fourni par le FSB, les services secrets d'ordinaire plus cachotiers. On se demande à quoi ils jouent. En tout cas, la mobilisation en masse provoque une levée en masse, une levée de boucliers. C'est la nouvelle erreur du Kremlin. Voir des femmes assiéger des bureaux de recrutement pour empêcher l'armée de prendre leur mari ou leur fils, eh bien, des conscrits ivres-morts et d'autres qui se mutilent, c'est un carnaval pacifiste. Il ne manque que le défilé des soudards, crosse en l'air, place rouge. Le contraste est saisissant avec l'Ukraine, où la société se militarise à l'israélienne et où le président ne quitte plus son t-shirt kaki. Wagner donc se met en scène et on est bien forcé de se demander si ce n'est pas le crépuscule des dieux.
Magnifique chute. Merci, bravo Vincent. Bonne journée à vous, 7h46.
Europe Matin.
Allez, la littérature, Nicolas Carreau, ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Stéphane Carlier.
Clara lit Proust, c'est le titre chez Gallimard, l'histoire de Clara, mais ça commence chez Cindy. Cindy Coiffure, c'est un salon de coiffure, donc celui de Jacqueline Habib, née de l'âge, un beau personnage Jacqueline, fan de Jacques Chirac, parce qu'il est beau. Quand elle décroche le téléphone du salon, vous savez, elle enlève d'abord sa boucle d'oreille droite à clip, avant de poser le combiné sur son oreille. On est en Saône-et-Loire. Le salon, oh, c'est pas un Jacques Dessange ou un Jean-Claude Biguine, hein. C'est un petit salon de quartier qui survit grâce à ses habitués, mais qui au moins, et c'est la fierté de Madame Habib, n'a pas cédé à la tentation d'un jeu de mots avec tif.
Ouais, créatif, diminutif, etc.
Exactement, ouais. Ça existe aussi avec R, Voltaire, Rocker, on les connaît. Mais enfin, c'est un problème quand même ce nom, Cindy Coiffure. Cindy, c'était la fille de l'ancien propriétaire. Bref, dans ce salon, il y a Nolwenn, Patrick aussi, et puis Clara. Clara, ça va, franchement. Elle est jeune, 23 ans, elle est chouette. Elle vit avec un chat, même s'il n'aime pas les caresses, et elle est avec JB, pompier beau gosse, qui se fait draguer par Jacqueline d'ailleurs quand il passe au salon, c'est un peu gênant. Mais bon,
Elle n'est plus trop amoureuse, en fait, Clara. Et sa vie est un peu trop réglée, sans trop de relief, un peu morose.
Quel rapport avec Proust ?
Ça arrive. Un jour, un client oublie un roman dans le salon, un livre de poche. C'est, du côté de chez Swann, le premier tome de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Le client n'est jamais repassé et Clara a rangé le bouquin dans un tiroir. Et puis un jour, elle s'y met. Et tout à coup, un peu comme si elle avait croqué dans une madeleine, l'ambiance, les décors, les ombrelles, les robes la téléportent dans son enfance. Elle revoit un tableau familier qui était chez sa nourrice. Elle continue. Elle a un peu de mal au début avec les phrases à rallonge, les imparfaits du subjonctif, les digressions, mais elle s'accroche et ça l'obsède. Elle pense à Combray, le village de Proust, comme si c'était chez elle. Elle manque son arrêt de bus pour la première fois et elle vit maintenant dans la recherche. C'est tout un monde qui s'ouvre et cette lecture va changer sa vie, mais pour de vrai. Comment ? Bah, il faudra lire pour savoir. C'est un hommage à la littérature, ce roman, vous avez compris, et à son pouvoir, surtout à sa capacité à changer les points de vue sur le monde, mais pas seulement. Les personnages sont aussi très drôles, très bien dessinés, et c'est réjouissant.
Voilà, Clara lit Proust, c'est chez Gallimard. Merci Nicolas, et bien faites de même, lisez Proust. Hein.
Ah bah absolument, ah c'est bah pas oui, si compliqué voilà. que ça. En fait.
Allez, les jeux vidéo, Caroline Speller, vous allez nous parler d'un jeu qui se déroule, oh tiens, c'est original, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Eh oui, et quand on associe jeux vidéo et Seconde Guerre mondiale, on s'imagine être au cœur des batailles, armes à la main, affrontant les forces de l'Axe, comme ça en fait.
Ah oui, on vient de l'entendre.
Bah,
hein.
C'est ça, exactement. Il faut dire que pour la plupart, ce sont soit des jeux de stratégie où on dirige des unités d'infanterie, blindées ou aériennes, ou des FPS, des jeux de tir à la première personne où on voit l'action à travers les yeux de notre personnage.
Voilà, mais le jeu du jour, hein, ce n'est ni un jeu de tir ni de stratégie.
Hein. Eh non, moi ce que je vous propose, c'est Gerda, A Flame in Winter, un jeu narratif, une expérience interactive où l'on doit faire des choix qui influencent notre aventure, un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Dans ce jeu, on s'éloigne des lignes de front pour un village danois sous l'occupation nazie pendant l'hiver 45. Alors dans un décor de village enneigé qui ressemble à des peintures impressionnistes, on incarne Gerda, une infirmière. Mais là, tout bascule quand son mari, suspecté d'être résistant, est embarqué par la Gestapo. Pour découvrir ce qu'il se passe, nous devons rencontrer les habitants du village et tisser des relations avec eux.
Alors, le genre de choix que l'on doit faire, ça ressemble à quoi, Caroline ?
Alors, c'est un peu compliqué, mais ce jeu n'a pas une vision manichéenne. On se retrouve certes au milieu de deux camps, mais nous rencontrons aussi des humains oppressés par la guerre et l'occupation. Alors, doit-on compatir pour une cousine, qui est secrétaire pour la Gestapo, aider une femme juive et sa fille à sortir du pays, plutôt que des résistants qui peuvent aider notre mari ? Au final, c'est à vous de choisir, car toutes vos actions ont un impact sur Gerda, la survie de ses proches, mais surtout sur la fin de votre histoire. Gerda, A Flame in Winter, édité par Dontnod, est disponible en téléchargement sur PC et là sur la console de Nintendo, la Switch.
Ah, c'est les champions de ce genre de jeu, Dontnod, hein,
oui,
qui est un studio français et qui a fait un jeu qui s'appelle, je me rappelle,
Life
is Strange, effectivement. Là, c'est un carton. Alors, c'est genre un peu bizarre pour ce genre de vieux joueurs comme moi, mais bon, ça marche très très bien.
Et ils font que des titres en anglais, donc.
Oui, c'est ça. Et oui.
C'est marrant.
Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Carreau, Caroline Speller. À la semaine prochaine. 7h51 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Sauver l'humanité d'une menace future, voilà l'objectif de la mission de la NASA baptisée DART qui a eu lieu cette nuit. Un vaisseau kamikaze, plus petit qu'une voiture, a été envoyé pour percuter un astéroïde et modifier sa trajectoire. Une première historique. Joe Biden va recevoir Emmanuel Macron le 1er décembre prochain. Il s'agit, selon la Maison Blanche, de témoigner de la profondeur et de la vigueur de la relation entre la France et les États-Unis. Et puis le nombre d'interventions volontaire de grossesse est restée quasiment stable l'année dernière. Selon une étude de la direction des statistiques publiée ce matin, 223 300 ont été pratiquées en 2021. Des chiffres en baisse en revanche pour les femmes de moins de 25 ans.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémolet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Depuis la victoire de Fratelli d'Italia, le Rassemblement National a le sourire. Éric Zemmour lui se rêve en Giorgia Meloni. Alors on dit souvent que l'Italie est un laboratoire politique en Europe. Est-ce que le scénario italien de dimanche pourrait se dérouler en France ?
Alors oui, mais en fait non. Oui, le pays de Jules César, de Machiavel et de Gramsci est un laboratoire politique, c'est évident. Mais non, la France ne dupliquera pas le scénario italien. Alors pourquoi ? D'abord, en Italie, l'alliance des droites remonte aux années 90. Depuis, on ne peut pas dire que la France ait suivi le même chemin. Elle a même fait le choix inverse, celui du cordon sanitaire du Front républicain. On attribue ce choix à une sorte de vertu chiracienne. On oublie qu'à l'époque, la droite était suffisamment forte pour gagner sans le FN. Bah, aujourd'hui, c'est le FN, le RN, qui se croit assez fort pour gagner sans LR. Autre différence essentielle, le mode de scrutin. En Italie, c'est une élection à un tour à la proportionnelle, ce qui impose le principe de coalition. En France, vous savez comment on vote, Dimitri, je ne vous fais pas un dessin. Et dernière différence, l'expérience du pouvoir. Giorgia Meloni était ministre il y a 14 ans. Matteo Salvini a été ministre de l'Intérieur. Le parti de Salvini, la Lega, était même une composante de la coalition menée par le centriste Mario Draghi. C'est un peu comme si Jordan Bardella ou Marion Maréchal gouvernaient avec Elisabeth Borne. Bah, chez nous, c'est impensable. Donc les droites françaises et italiennes sont très loin d'être jumelles.
Alors cette victoire de la coalition des droites en Italie pose inévitablement la question pour une éventuelle alliance entre RN et LR. Possible
ou pas ? La question se pose, hein, mais en fait, on a déjà la réponse. Marine Le Pen ne veut pas s'allier avec LR ou avec Zemmour, elle veut les dévorer. LR ne peut pas s'allier avec le Rassemblement National. Ce serait renvoyer vers Macron une partie de ses électeurs et ce serait se jeter dans la gueule du loup et à la fin se faire dévorer. Alors Zemmour, lui, veut faire alliance avec tout le monde, mais sa proposition reste sans réponse. Si on ajoute à cela le fait que dans les sondages, les électeurs sont très partagés sur ces alliances, on voit que Mélanie ou pas Mélanie, la NUPES de droite n'a pas avancé d'un pouce.
La NUPES de droite, bien vu. Mais quand même cette poussée populiste en Italie, 3 semaines après la Suède, Vincent. C'est la preuve que dans toute l'Europe, le vent souffle à droite en ce moment-là.
Il y a un effet de souffle, hein, c'est indéniable. Mais en fait, la leçon italienne, elle n'est pas tactique, elle est idéologique. Qui a gagné en Italie ? Il y a ceux qui se sentent dépossédés culturellement par l'immigration. Il y a ceux qui se sentent déclassés économiquement. Et puis il y a ceux qui se sentent menacés intimement par l'idéologie du genre. Et puis il y a ceux encore qui se sentent méprisés démocratiquement par les experts, par les juges, par les technos, par les commissaires européens qu'ils accusent de décider à leur place. Et puis enfin, il y a tous ceux, et ils sont nombreux, qui sont excédés par l'antifascisme censé les intimider. Cette réserve électorale, elle est considérable et elle existe aussi en France. Mais ce qu'elle attend, cette réserve électorale en France, ce n'est pas une alliance des partis. Ce qu'elle attend, c'est un discours, c'est une vision, c'est une incarnation. En un mot, c'est une alternance. Ce n'est pas compliqué, au fait. Celui ou celle qui parviendra à répondre à tous les aspects de cette angoisse de la dépossession deviendra naturellement le candidat de la droite ou des droites ou de la droite et de l'extrême droite ou du peuple de droite. Hein, on peut le dire comme vous voulez. En d'autres termes, Dimitri, si je doute d'une prochaine coalition des partis, je suis convaincu que Le Pen ou Wauquiez ou Zemmour ou une nouvelle proposition, un David Lisnard par exemple, visent tous le même objectif, faire l'union des droites, des électeurs de droite, oui, mais dans les urnes.
Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Je signale la une de votre journal, Le Figaro, Giorgia Meloni, un défi pour l'Europe. Merci à vous, 7h55.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Allez, j'espère que vous passez un bon moment sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le journal de Fanny Marceau. Juste après, au micro de Sonia Mabrouk, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, 7h56. Nous sommes le mardi 27 septembre, il est pile 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une, époustouflant, historique, un satellite kamikaze de la NASA lancé à 20 000 km/h sur un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire. L'objectif à terme, eh bien, c'est de protéger la Terre de ces fameux géocroiseurs. On va tout vous expliquer avec Alexis Guilleux, notre correspondant à Washington. La réforme des retraites, alors quand, comment Emmanuel Macron, semble-t-il, hésite encore. Mais pour travailler plus longtemps encore, faut-il trouver des employeurs. Dans ce journal, vous entendrez l'exemple d'une entreprise qui parie, justement, sur les seniors. Le grand exode des Russes, depuis l'appel à la mobilisation pour aller combattre en Ukraine, plus de 260 000 hommes ont quitté le pays. Inquiétude en Russie sur une possible fermeture des frontières. Et puis le jour d'après, en Italie, après la victoire des nationaux conservateurs de Giorgia Meloni, nous serons en direct à Rome dans un instant. Votre invitée, Sonia Mabrouk, à 8h13. Bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invitée, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Le gouvernement accélère sur les énergies renouvelables et en même temps veut accélérer sur le nucléaire. Alors comment concilier ce en même temps sans risquer le grand écart ? À tout à l'heure pour en parler.
Matin.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Imaginez un astéroïde qui fonce à pleine vitesse sur la Terre. Scénario de film catastrophe tout à fait probable qu'a voulu anticiper la NASA. Il y a plusieurs mois, elle a envoyé la mission DART dans l'espace, un vaisseau kamikaze chargé de percuter l'astéroïde Dimorphos. Le grand boom, c'était cette nuit.
3, 2, 1. Oh my gosh.
Oh, wow. Émotion indescriptible à la NASA devant ces images extraordinaires à 11 millions de kilomètres de la Terre. Alexis Guillot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Mission accomplie donc.
Oui, cette sonde DART, pas plus grosse qu'une voiture, a percuté l'astéroïde à 22 000 km/h. Sur les images en direct de la NASA, on a pu voir le vaisseau s'approcher inexorablement de sa cible avec des détails de cet astéroïde Dimorphos, sorte de gros caillou de 160 mètres de diamètre. L'impact final a eu lieu à 1h14 du matin. Un immense soulagement pour l'équipe d'ingénieurs de la NASA puisque tout s'est déroulé comme prévu. Désormais, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, explique la scientifique Caroline Ernst.
Nous allons faire des analyses, bien sûr. Dimorphos ressemble en de nombreux points aux autres petits astéroïdes que nous avons vus. Au cours des prochains jours, nous trouverons l'endroit exact de l'impact afin de vraiment comprendre quel type de cratère nous avons créé.
Alors, des premières images post-impact devraient être dévoilées dans les 48 heures et dans les prochaines semaines, on saura si la sonde a réussi à modifier l'orbite de Dimorphos qui tourne autour d'un autre astéroïde un peu plus grand, Didymos. Et en cas de succès, ce sera la toute première fois que l'humanité parvient à faire dévier un corps céleste de sa trajectoire. D'où l'émotion cette nuit dans les rangs de la NASA.
Alexis Guilleux.
Voilà, et le père de cette mission DART, c'est un Français. Il s'appelle Patrick Michel. Il était l'invité d'Europe Matin à 7h12. Vous en entendrez un extrait tout à l'heure chez l'ami Romain Desarbres dans Europe Midi. Interview à retrouver en intégralité également sur europe1.fr et votre appli Europe 1. Pour leur retour sur Terre dans la tempête des retraites, vendredi, le gouvernement devrait enfin annoncer les modalités de la future réforme.
Emmanuel Macron veut repousser l'âge de départ à la retraite. 63, 64, 65 ans, on se pose encore la question, mais il l'a répété pendant toute sa campagne électorale. C'est pour lui nécessaire. Cela dit, qui dit travailler plus longtemps, dit encourager l'embauche des seniors. Sujet, Elisabeth Borne l'a dit hier, qui doit être au cœur des réflexions. Car certaines entreprises reprochent aux travailleurs plus âgés d'être fragiles. D'autres, en revanche, ont tout misé sur leur expérience. Margot Fodéré.
Pour certifier les comptes de sa TPE spécialisée dans le handicap, Dominique Dupaty cherchait un profil expérimenté, capable de piloter un budget de 800 000 euros. Elle a recruté un directeur financier de 65 ans.
Il avait eu un poste important, il gérait un service, c'était comme s'il gérait une TPE.
Habitué à travailler en équipe et à l'aise avec les indicateurs financiers, son intégration dans l'entreprise a été particulièrement facile.
Il a tout de suite pris en main le logiciel parce qu'il connaissait bien ce genre d'outils. Il s'est parfaitement adapté à nos besoins.
Des profils seniors, ce sont aussi des années de pratique indispensables pour certains métiers comme celui de technicien monteur, raconte Vanessa Jaquette, responsable du développement RH chez Euromaster.
On a vraiment besoin d'une solide expérience. On a besoin de technicité quoi, dans nos métiers.
Ici, sur 3000 collaborateurs, 36% ont plus de 45 ans et ils aident à perpétuer des professions.
C'est un trésor pour nous, ce transfert qui s'effectue avec les nouvelles générations sur des métiers qui sont peut-être moins représentés dans les CAP ou dans les BTS.
Mais tous les seniors ne sont pas logés à la même enseigne. Selon l'APEC, ce sont clairement les cadres qui s'en sortent le mieux, en particulier dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme les télécoms ou le conseil.
Margot Fodéré du service économie d'Europe 1.
Ah, les seniors, c'est un trésor. Beau slogan en tout cas. La conférence des évêques de France face à Emmanuel Macron aujourd'hui.
Bras de fer en vue sur l'aide active à mourir. Mi-septembre, le comité national d'éthique se disait favorable à une évolution sur la loi sur la fin de vie. Le chef de l'État veut la mettre en place avant fin 2023. Les évêques y sont en revanche opposés.
Emmanuel Macron qui a par ailleurs reçu une invitation prestigieuse hier.
Joe Biden l'invite avec son épouse à dîner à la Maison Blanche le 1er décembre. La dernière fois c'était en 2018 à la table de Donald Trump. Cette fois encore, Washington va mettre les petits plats dans les grands, Jacques Serret.
Oui, il s'agit de la plus haute forme de rencontre diplomatique, une réception en grande pompe qui sera notamment marquée par un dîner d'État, annonce faite hier soir par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
Cette visite témoignera de la profondeur de la relation entre les États-Unis et la France, notre plus vieil allié. Notre relation est fondée sur des valeurs démocratiques, des liens économiques et une coopération en matière de défense et de sécurité.
Un signal fort envoyé par Washington puisque ce sera la première visite d'État organisée à la Maison-Blanche depuis l'élection de Joe Biden. Cela alors qu'il y a un an, à la même période, les deux dirigeants traversaient une brouille diplomatique inédite à la suite de l'implication des États-Unis dans l'annulation par l'Australie de l'achat de sous-marins français, le fameux contrat du siècle. Mais depuis, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes et Washington doublait ses exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Union européenne. Comme à Alger le mois dernier, la crise énergétique sera donc au cœur du déplacement présidentiel.
Oui, non, mais...
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Et pendant ce temps, la société russe, elle est en plein tourment.
Et partout, des manifestations anti-guerre, des arrestations massives et des milliers de jeunes en âge de combattre qui fuient le pays. Aux frontières de la Russie, des kilomètres d'embouteillage pour entrer en Mongolie, en Finlande, en Géorgie. Bonjour Nicolas Tonnef.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie. 300 000 réservistes doivent être mobilisés. 260 000 sont partis. On l'apprend par une fuite dans les médias, chiffre qui pour une fois correspond à la réalité, hein, Nicolas.
Oui, c'est ce qui change tout hein, dans la manière de gérer le pays. C'est que d'ordinaire, les attentes du Kremlin en fait décrètent la réalité. Et cette fois, c'est la réalité qui dicte les réactions du pouvoir avec la reconnaissance du coup hein, d'erreurs dans la gestion de la mobilisation, l'envoi nécessaire de renforts sur la frontière avec la Géorgie, l'interdiction de sortie du pays aux réservistes envisagée par les députés. Le passage des frontières, entrée et sortie, est en première page actuellement sur le site officiel du FSB. C'est un peu comme si la Loubianka, hein, le siège de l'ex-KGB, avait retenu la leçon du 5e bureau qui avait affabulé sur l'Ukraine et promis une invasion sans résistance pour plaire au pouvoir. Les généraux avaient été limogés par Vladimir Poutine. Mais dorénavant, les dangers sont en Russie et les dissimuler est impossible et contre-productif, quitte à déplaire au président.
Alors pendant ce temps-là, en Ukraine, c'est la fin des référendums d'annexion dans les oblasts occupés par l'armée russe. Bon, est-ce qu'on prend un risque à dire que le oui va l'emporter? Comment ça va se traduire sur le terrain, Nicolas?
Alors, aucun risque. Hein. Le oui va l'emporter, Dimitri. Ce qui va se passer, en fait, c'est que administrativement, la Douma à Moscou, dès ce soir, pourrait reconnaître l'annexion. Le vote pourrait avoir lieu dès demain. Ensuite, c'est la Chambre haute qui approuvera cette annexion. Et Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours entérinant l'agrandissement de la Russie d'ici la fin de la semaine. Sur le terrain, il va falloir délimiter la frontière, hein, ce qui va être très compliqué puisqu'on est en pleine guerre. Et puis, il va y avoir aussi le début d'un suspense militaire. Frapper ces territoires dorénavant sera frappé l'intégrité territoriale russe selon le Kremlin. Alors quelle sera la réponse militaire de la Russie hein, surtout si les armes sont fournies par les Occidentaux. Il y a deux menaces connues, celle d'un élargissement du conflit et puis celle de l'usage de l'arme nucléaire.
Merci beaucoup Nicolas Tonnef, spécialiste européen de la Russie.
C'est le Kremlin qui a salué hier la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives en Italie.
Et Dimitri Peskov, le porte-parole du président russe, s'est dit ouvert à des relations constructives avec l'Italie, Rome, où on retrouve notre correspondant. Bonjour Antonino Gallofaro.
Bonjour.
Giorgia Meloni savoure encore ce matin évidemment sa victoire aux législatives hier. Sa coalition de centre-droit l'a emportée avec 44% des suffrages. S'ouvre maintenant une série de tractations. Va falloir former un gouvernement. Comment Giorgia Meloni compte-t-elle gouverner? Ce matin, on a quelques indices qui commencent à apparaître.
Oui, le premier indice, eh bien, c'est l'absence hier de Giorgia Meloni de la scène publique. Le temps des déclarations, des directs sur les réseaux sociaux, des invectives, eh bien, semble terminé. Giorgia Meloni est au travail pour former son gouvernement. Elle pense aussi déjà à la prochaine loi budgétaire et donc à celle ou celui qui pourra occuper le poste de ministre de l'économie. Des sujets dont elle a peut-être parlé avec le président du Conseil sortant. Selon plusieurs sources, elle aurait appelé hier Mario Draghi. Les mots d'ordre sont maintenant prudence et sens de responsabilité. C'est l'image que veut désormais renvoyer Giorgia Meloni. Ce sont donc ses lieutenants qu'elle envoie devant les caméras de télé. Et l'un des points abordés, c'est la Constitution. Fratelli d'Italia aimerait un État plus proche du peuple. Ils veulent donc que le président de la République soit directement élu par les Italiens. On peut se faire aussi une idée sur sa manière de gouverner. Sans compromis, commente la presse ce matin, la première victime sera sans doute son allié, Matteo Salvini, le patron de la Ligue, qu'elle compte neutraliser. Elle ne lui accordera aucun ministère clé comme l'intérieur qu'elle compte réserver à son propre parti.
Merci beaucoup. Antonino Gallofaro en direct de Rome pour Europe 1.
Et c'est moi qui vous remercie pour votre journal, Fadi. À demain
matin.
Merci
à vous, à demain.
Dans un instant sur Europe 1, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher répond aux questions de Sonia Mabrouk. Votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est la ministre de la Transition énergétique.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
La sobriété énergétique, c'est vraiment l'objectif fixé en cette période de crise, au risque d'accélérer la récession, comme le dit l'IFRAP, le think tank. Agnès Pannier-Runacher a modélisé les effets du plan de sobriété du gouvernement et les conséquences sur la croissance risquent d'être sévères pour le moins.
Alors pas du tout. Et j'ai d'ailleurs réagi à cette publication dont la méthodologie scientifique est plus que douteuse. La sobriété, c'est des mesures de bon sens qui partent du terrain et qui visent à faire la chasse à l'énergie qui est gaspillée. Et lorsque vous éteignez une lumière ou lorsque le ministère de la Transition énergétique met le chauffage à 19 degrés, je peux vous assurer que ça n'aura aucune conséquence sur la croissance. Dans les entreprises, c'est même le contraire. Ce que nous disent les entreprises aujourd'hui, vous savez que, par exemple, les entreprises de la grande distribution se sont mobilisées sur le plan sobriété. Elles ont fait la chasse à toutes ces économies d'énergie, ces ventilations qui tournent quand leurs centres commerciaux sont fermés, ces lumières qui sont allumées toute la nuit. Elles se sont aperçues qu'elles avaient des gains importants de coûts d'énergie et que ces gains importants, elles pouvaient les récupérer par exemple
donc
pour investir dans d'autres sujets.
Oui.
Donc le plan sobriété
ne renvoie pas une injonction de décroissance pour vous.
Surtout pas, et nous avons été très clairs avec le monde industriel parce que dans le monde industriel, la sobriété peut être perçue comme justement un questionnement, mais il est très clair pour nous que la sobriété, c'est pas moins produire, c'est au contraire aller chercher les économies sur de l'énergie qui est dépensée inutilement pour permettre de mieux produire et justement pour faire en sorte que les coûts de l'énergie baissent de manière générale et pour faciliter la compétitivité des entreprises qui, elles, ont besoin de beaucoup d'énergie pour produire.
Tout organisme qui contredit vos choix, il est frappé du sceau du manque de rigueur scientifique ce matin, Agnès Pannier-Runacher.
Je vous invite à relire l'étude parce que, en l'occurrence, vous voyez qu'elle n'est pas fondée sur un argument scientifique. Et d'ailleurs, de manière très simple, la sobriété, c'est un objet qui est travaillé par beaucoup d'économistes et qui fait partie des pistes fondamentales pour atteindre la décarbonation, lutter contre le réchauffement climatique. Il y a trois enjeux au fond. Il faut économiser l'énergie qu'on gaspille, c'est la sobriété, c'est l'efficacité énergétique aussi, c'est-à-dire faire en sorte de, par exemple, changer vos éclairages pour des éclairages qui sont plus efficients, qui consomment moins d'énergie. Mm-hmm. On parle des LED, les LED, ça peut être 50% de gains énergétiques. On touche toujours pas à la croissance, là. Et puis, c'est mieux produire des énergies qui sont renouvelables pour sortir des énergies fossiles. L'enjeu étant que ce sont les énergies fossiles qui sont à l'origine du réchauffement climatique.
Pas de décroissance.
Ce sont aussi les énergies fossiles qui sont à l'origine de notre dépendance énergétique et qui explique les pertes de pouvoir d'achat des Français et la perte de compétitivité des entreprises.
Pas
donc l'ennemi, c'est l'énergie fossile.
Pas de décroissance, dites-vous, mais en quoi la sobriété est une démarche volontaire? C'est ce que vous dites également. Elle est forcément volontaire?
Oui, parce que c'est une démarche qui a vocation à s'inscrire dans le temps. C'est comment on s'organise mieux pour consommer de l'énergie et arriver à une économie d'énergie de 40% à horizon 2050. 40% à horizon 2050, c'est ce que les experts de RTE nous fixent comme objectif pour atteindre, encore une fois, le net zéro carbone, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le fait de ne plus émettre de gaz à effet de serre et donc d'avoir répondu au problème du réchauffement climatique.
Mais parfois, n'est-ce pas subi quand nous devons en partie supporter, c'est la réalité, les conséquences des choix de nos gouvernants qui ont décidé notamment de fermer Fessenheim?
Je pense qu'on mélange plusieurs choses. La sobriété, c'est une démarche que nous avons engagée au niveau des entreprises, au niveau des ministères.
De certains choix aussi, Madame la Ministre.
Non, c'est une démarche que nous avons engagée qui vise à répondre à l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, vous pouvez faire de la sobriété parce que vous voulez baisser les gaz émissions à effet de serre et parce que nous voulons sortir des énergies fossiles. Quelle que soit la situation de notre système énergétique, c'est une démarche qui est nécessaire. Et pourquoi elle est volontaire? Parce qu'elle est mieux appropriée comme ça.
On la remet pas en cause.
Parce que chacun peut se l'approprier et chacun peut aller.
Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence de certains choix d'Emmanuel Macron, François Hollande, de fermer notamment Fessenheim? Tout n'est pas évidemment la conséquence de Fessenheim, mais est-ce que cette fermeture ne nous pousse pas vers une sobriété que vous appelez volontaire?
Je veux redire une chose. La sobriété, elle est portée par le GIEC, qui est le groupe d'experts international pour la lutte contre le réchauffement climatique. et elle est portée comme étant un élément nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique, quels que soient les pays. D'autres pays n'ont pas été concernés par Fessenheim. Pourtant, ce sujet de la sobriété est important, comme celui de l'efficacité énergétique. Ensuite, il y a la situation de court terme, c'est-à-dire la crise énergétique. Et là, dans cette crise énergétique, effectivement, vous pouvez interroger la décision de fermeture de Fessenheim, comme on peut interroger notre retard en matière d'énergie renouvelable. Et c'est pour ça que nous agissons aujourd'hui.
Alors, parlons-en.
Nous agissons en passant, en ayant un plan de relance des énergies renouvelables. Et je veux dire sur, à ceux qui nous écoutent que les énergies renouvelables,
on va en parler.
C'est beaucoup de choses.
Je veux faire d'abord le nucléaire, Agnès Pannier-Runacher. Nous allons parler, évidemment, vous le portez, ce plan d'accélération sur les énergies renouvelables, mais sur le nucléaire, justement.
Donc c'est également un plan de relance du nucléaire.
Le Figaro a pu consulter ce matin le projet de loi pour l'accélération du nucléaire. L'objectif du texte serait de raccourcir les délais administratifs afin de poser la première pierre du premier EPR 2, hein, ces nouveaux réacteurs, avant la fin du quinquennat. Est-ce que vous confirmez ce matin cette information, cette volonté de votre part ?
Tout à fait. Je porterai un projet de loi qui permettra d'accélérer, là aussi, l'installation de nouveaux sites, de nouveaux réacteurs nucléaires dans des sites qui sont déjà existants, qui ont des réacteurs nucléaires. Nous avons des réserves foncières. Donc, vous le savez, il y a deux projets qui sont à Penly. Les deux réacteurs suivants pourraient être à Gravelines. Et nous lançons le débat public à la fin du mois d'octobre parce que nous voulons tenir notre calendrier sur le nucléaire.
Donc, première pierre avant 2027 pour une éventuelle entrée en service seulement à l'horizon 2035 ?
Tout à fait, parce que ce sont des projets de long terme avec des phases de construction qui sont très complexes. Et donc, ce calendrier nous amène à un EPR qui ne sortirait pas, qui ne serait pas mis en service avant 2035.
Comment aller plus vite, Agnès Pannier-Runacher ? Il y aura des dérogations, d'ailleurs, comme les éoliennes en mer, on va en parler tout à l'heure. Autrement dit, est-ce que les projets de réacteurs vont bénéficier de ce qu'on appelle une raison impérative d'intérêt public majeur, de dérogation, par exemple au Code de l'environnement, pour aller plus vite ?
Alors, notre objectif, c'est sur les sites qui accueillent aujourd'hui des installations nucléaires, de faire en sorte de pouvoir accélérer les procédures administratives. Pourquoi ? Parce que ces sites, on les connaît déjà d'un point de vue environnemental, d'un point de vue d'archéologie préventive. On sait déjà qu'ils sont artificialisés. Et donc, on peut se dire qu'on peut aller plus vite sur les phases d'instruction administrative parce qu'on ne va pas apprendre des choses particulières. On ne va pas mettre en danger la nature sur des sites qui sont déjà existants, qui accueillent déjà des réacteurs nucléaires. Donc, c'est au fond là aussi une mesure de bon sens pour gagner du temps et faire en sorte de construire l'indépendance énergétique de notre pays.
Mais ces nouveaux EPR ne pourront pas, malgré tout, mettre à l'abri la France sur le plan énergétique. À ce sujet, Agnès Pannier-Runacher, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est à l'horizon 2028. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Moi, j'ai vu hier que la loi prévoit toujours la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. On marche sur la tête ?
Alors, vous le savez, Sonia Mabrouk, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle a vocation à être revue. Je lance les travaux dans les prochaines semaines, courant octobre.
Elle va être balayée, elle va être abrogée.
Elle va être ajustée, c'est très clair. Le président de la République l'a dit lui-même. Les fermetures, la précédente programmation doit évoluer. Elle doit intégrer une accélération de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, elle doit intégrer une augmentation de notre production d'électricité. Et le président de la République a très clairement dit, dès février dernier, qu'il prolongerait toutes les centrales nucléaires tant que les conditions de sécurité sont réunies. Et c'est ce que nous ferons.
D'ailleurs, un sujet particulier. Est-ce qu'on a les compétences aujourd'hui ? D'ailleurs, c'est une question assez vertigineuse de la poser en France, parce qu'on était quand même les champions du nucléaire. Est-ce qu'on a les compétences aujourd'hui pour ces nouveaux EPR 2, pour les construire, pour les maintenir ?
Alors, je l'ai dit, c'est un projet de longue haleine. C'est un des plus beaux projets industriels que nous allons lancer en France dans les prochaines semaines. Et nous avons un programme à la fois de formation et de recrutement qui est très intense. EDF nous indiquait qu'ils auraient besoin de, grosso modo, 10% des ingénieurs qui sont aujourd'hui formés en France. Ça fait partie de la feuille de route que de travailler sur l'attractivité de cette filière, mais également sur les recrutements et sur la formation. La bonne nouvelle, c'est que pour un projet qui a vocation à sortir, à démarrer en 2035, eh bien, ça nous laisse le temps de mettre en place les filières et de faire en sorte d'avoir, au moment où on en a besoin, les ingénieurs, les techniciens, les soudeurs, les chaudronniers, qui sont des compétences pointues et qui seront seront embarqués dans une aventure industrielle, mais également, je dirais, collective et au service des Français, sans pareil.
Le temps, vous venez de dire le temps, l'avez-vous après avoir tant tergiversé sur le nucléaire? Ce matin, certainement nos auditeurs vous écoutent et disent « Mais combien de temps perdu? Tout cela pour dire aujourd'hui votre volonté, votre ambition sur le nucléaire ?»
Vous savez, Sonia Mabrouk, c'est le président de la République qui, en 2017, alors que le président Hollande, dans le quinquennat précédent, avait décidé de fermer Fessenheim, qui a d'abord sauvé Areva et qui a très clairement
repris la main. Qui a aussi acté de la fermeture de Fessenheim, Madame la Ministre.
Qui avait malheureusement été décidé avant. Et vous savez que des installations nucléaires, on le voit en Belgique, on le voit en Allemagne, lorsqu'on décide leur arrêt, c'est pas si simple de les remettre en route. Ce n'est pas comme un interrupteur électrique, on fait pas on-off. Il y a un minimum de maintenance à réaliser et c'est plusieurs années de remise en route si, au moment où la décision aurait pu se changer, si on avait dû changer cette décision, c'était plusieurs années de travail. Donc, ce n'est pas blanc-noir. Et c'est le président de la République qui, en 2020, a fait du nucléaire l'un des 5 secteurs stratégiques du plan de relance.
Certes,
c'est
le président mais vous reconnaissez qu'il y a eu des années de retard.
C'est le président de la République,
pardon. Les corriger, c'est bien, Agnès Pannier-Runacher, mais il y a eu ce retard et cette fermeture.
Je ne vais pas parler pour les prédécesseurs du président Macron. Je crois qu'effectivement, tout le monde voudrait avoir aujourd'hui des centrales nucléaires supplémentaires. Moi, je constate qu'il aurait fallu les lancer il y a 15 ans. Ça fait 3 mandatures. Vous voyez bien que ce n'était pas exactement ce qu'on avait en tête à l'époque, y compris sous la présidence Sarkozy. Donc, ne revenons pas sur le nez renversé. Aujourd'hui, on a un plan.
Alors,
ce plan, c'est la relance du nucléaire.
Voilà pour le nucléaire. Les énergies renouvelables.
C'est la relance également des énergies renouvelables.
Nous n'avons plus le temps d'attendre. Vous étiez, Agnès Pannier-Runacher, d'ailleurs, jeudi dernier, à Saint-Nazaire, à l'inauguration du parc éolien en mer. Que répondez-vous à ceux qui dénoncent ces éoliennes? Un non-sens écologique, une aberration esthétique? Qu'est-ce que vous leur dites?
Moi, je suis stupéfaite. Parce qu'aujourd'hui, si l'on veut sauver l'espèce humaine, il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Mais pour sauver l'espèce humaine, il faudra des éoliennes. Sinon, on va tomber de la chaise.
Je vais jusqu'au bout, Sonia Mabrouk. Le sujet aujourd'hui, c'est de sortir des énergies fossiles. Les énergies fossiles tuent la biodiversité. Les énergies fossiles créent une dépendance de notre pays qui est majeure et impacte le pouvoir d'achat des Français. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui. Les énergies renouvelables, il y en a de différentes natures. Il y a du photovoltaïque, il y a de la géothermie, il y a de l'hydraulique, il y a des éoliennes. Chacune de ces énergies, et je pourrais continuer l'énumération,
le parc éolien Saint-Nazaire.
Chacune de ces énergies compte pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui. Le parc éolien de Saint-Nazaire, c'est 480 mégawatts, alors qu'un réacteur nucléaire, c'est en moyenne 900 mégawatts. Un réacteur EPR, c'est 1650, 3 fois plus, il n'y a pas photo. Je veux dire, en tant que puissant, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui une puissance additionnelle avec ces éoliennes? Et vous ne m'avez pas répondu sur l'aberration esthétique d'ailleurs.
Alors, moi, l'aberration esthétique des coûts et des couleurs, on peut discuter. Je ne pense pas que ce soit une aberration esthétique, mais ça, je dirais que c'est un débat qui sera dans le public. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois encore, nous travaillons sur la base de la science et de l'expertise. La science et l'expertise, elle vous dit les choses suivantes. Elle vous dit que si nous voulons réellement récupérer notre souveraineté énergétique, notre indépendance énergétique, il faut plus de production d'électricité et plus de production de chaleur renouvelable. Que les éoliennes marines, et c'est ce que font les autres pays en Europe, c'est ce que fait le Royaume-Uni, c'est ce que font les pays de la Baltique, permettent de concentrer la production d'électricité avec un niveau d'efficacité qui est meilleur que les éoliennes terrestres. Ce que nous dit également les experts, c'est que nous avons besoin et du nucléaire et des énergies renouvelables parce que le nucléaire ne suffira pas et les énergies renouvelables ne suffiront pas. Et donc c'est sur la base de ces constats de travail sérieux, professionnel, que nous construisons une politique énergétique. Ce n'est pas sur la base de j'aime pas ou de commentaires de café du commerce.
Quand il s'agit des paysages français, Madame la Ministre,
ce n'est pas anecdotique, mais ce n'est pas anecdotique non plus d'être dans une situation où nous sommes dépendants de pays.
Nous sommes des citoyens, je n'oserais pas vous demander où vous habitez en dehors de Paris.
Et nous payons 10 fois plus cher l'électricité.
Devant votre vision quotidienne, je ne sais pas si vous me direz qu'il y a des goûts et des couleurs dans la vie.
Moi, je vous répondrai que nous avons des paysages qui ont été modelés notamment par les installations électriques et que les grands poteaux de lignes électriques sont inscrits dans nos paysages. Est-ce qu'ils apportent de la beauté supplémentaire à nos paysages ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'ils apportent de la résilience supplémentaire et qu'ils offrent un service public qui est absolument indispensable.
On va conclure,
donc,
oui.
Les éoliennes, le photovoltaïque, la géothermie, et par pitié, sortons du débat entre nucléaire et énergie renouvelable et abordons la situation. La situation, c'est de sortir des énergies fossiles, c'est d'aller plus vite, c'est de
conclure.
Répondre au combat climatique et au combat de la biodiversité.
Elle est importante parce qu'elle concerne aussi l'Arménie, je voudrais quand même en dire un mot. C'est une question sur l'adéquation entre nos principes et nos besoins. Nous sanctionnons la Russie pour avoir agressé l'Ukraine et en conséquence, nous devons trouver des alternatives au gaz russe. Mais ça ne dérange pas l'Europe d'avoir choisi l'Azerbaïdjan qui est en train en ce moment de s'essuyer les pieds sur la souveraineté arménienne.
Alors, moi, je le redis, hein. L'Europe, elle a condamné et elle est toujours très claire sur ses principes.
Elle n'est pas aussi claire sur le gaz azerbaïdjanais.
Elle est très claire sur ses principes en matière de droits de l'homme. Elle est un des rares continents à porter cette voix de manière continue. Elle est un des rares continents à prendre ses responsabilités et pas seulement sur la Russie en matière de droits de l'homme. Et je pense que c'est une force et je suis fière d'être dans un gouvernement qui supporte l'Europe et qui supporte ses principes qui sont essentiels pour nos démocraties.
Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous.
Merci Agnès Pannier-Runacher. Merci Sonia. Tiens, figurez-vous qu'à Reims, une banque a été braquée par un mini-drone. Bah, vous allez voir, ça laisse Yann Moix absolument songeur. À tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h32, le journal permanent, Christophe Lamarre.
20 000 km/h, c'est la vitesse mesurée au moment de l'impact. Le vaisseau spatial DART a percuté un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire. Mission expérimentale réussie et une promesse pour la NASA, protéger l'humanité contre ce type de menace. Joe Biden recevra Emmanuel Macron le 1er décembre à la Maison-Blanche pour une visite d'État. Il s'agit, selon Washington, de témoigner de la profondeur et de la vigueur des relations entre la France et les États-Unis. La mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine a fait fuir plus de 260 000 réservistes russes en 6 jours. Information révélée par le Kremlin. En Ukraine, les 4 référendums d'annexion organisés par Moscou prennent fin aujourd'hui. La France condamne fermement la répression violente en Iran. Plus de 1 200 manifestants ont été interpellés à Téhéran et dans plusieurs villes du pays. Le bilan humain est déjà lourd. Au moins 41 tués selon le régime, plus proche des 80 morts selon une ONG. À Nantes, les 2 Soudanais soupçonnés du viol d'une femme de 40 ans ont passé une première nuit en prison. Les 2 hommes sans aucun antécédent judiciaire sont âgés de 17 et 21 ans. Ils nient les faits qui leur sont reprochés. L'affaire provoque émotion et colère parmi les Nantais. Un collectif appelle à manifester samedi en centre-ville pour dénoncer la montée de la délinquance. Enfin, le mondial féminin de basket, coup d'envoi dans 1 heure de France-Serbie. Dernier match de groupe pour des Bleus assurés de jouer les quarts de finale. L'enjeu désormais, c'est de terminer aux 2 premières places et repousser ainsi à plus tard les retrouvailles avec les Américaines.
Merci Christophe Lamarre. Le temps, Anissa Haddadi, journée très agitée. Hein.
Alors il y a tout, il y a de tout sauf du grand et beau soleil, mais il y a tous les ingrédients. Il y a beaucoup de vent dans le sud, Mistral et Tramontane, on a du vent sur les côtes varoises, on a beaucoup de vent en Corse, là on va suivre la situation parce qu'on annonce des rafales jusqu'à 120 km/h sur le Cap Corse. Ouais, ça souffle très fort. On a beaucoup de vent aussi sur les côtes de la Manche, du vent qui va s'engouffrer cet après-midi sur toute la moitié nord du pays. On a des averses et on a même des giboulées. Et on est en septembre. Ouais. On a des flocons de neige.
Les giboulées, c'est
mars. Alors, ouais. C'est de la pluie, ouais. Dans laquelle on peut retrouver soit de la grêle, soit de la neige.
D'accord.
Et pour nous, aujourd'hui, ça sera de la neige, puisqu'on aura des flocons dès 1600 mètres, avec 20 cm de neige fraîche en Savoie, par exemple.
Déjà.
Ouais, déjà, ça commence bien. Donc, on a une vraie journée d'automne avec un temps qui est chamboulé. Et puis, alors, pour le reste du pays, je vous ai parlé beaucoup des littoraux et des montagnes. Pour le reste du pays, c'est des averses toute la journée, un peu comme hier, avec des températures en chute libre. Il fait encore plus froid qu'hier. 12 degrés à Belfort et Épinal, 14 à Aurillac et Besançon, 16 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 18 pour Angoulême, 20 à Nantes et Bordeaux, 23 à Marseille et 26 degrés à Nice.
Merci beaucoup Anissa, à 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
Allez, place aux signatures Europe 1. Bonjour Yann Moix.
Bonjour mon cher Dimitri.
Histoire de drone avec vous dans un instant. Emmanuel Ducrot aussi pour... Alors j'adore votre histoire de ce matin. Emmanuel, bonjour d'abord.
Bonjour Dimitri, bonjour Yann et bonjour à tous.
Voilà,
bonjour.
McDo renonce au steak sans viande. Tiens. Vous allez voir le progrès finalement, remet des bâtons dans les roues au progrès. Mais d'abord Yann, affaire policière avec vous ce matin, parce que pour la première fois à Reims, une banque a été braquée par un drone.
C'est très très grave Dimitri.
Bon, y a des choses plus graves que ça dans l'actu quand même.
Bah, écoutez, pour moi c'est tout sauf un détail, parce que ça veut dire qu'on rentre vraiment avec ce petit incident dans la civilisation du drone, c'est-à-dire qu'il y a pour moi une rupture et une mutation qui s'annonce.
Vous voulez dire que les drones sont des mutants ?
Bah, le drone est au monde des objets ce que le centaure est au monde animal, à si près que le centaure, lui, n'a jamais existé. C'est-à-dire que le drone n'est ni tout à fait un homme, ni tout à fait un objet. C'est une créature intermédiaire qui prolonge l'homme sans le remplacer totalement, car il emprunte à l'homme son intention, son discernement, et que l'action du drone est évidemment corrélée à des décisions humaines. C'est une excroissance de l'homme, d'une certaine manière.
Mais c'est aussi un objet.
Oui, comme le centaure est un animal. Parce que la différence entre l'homme et le drone, c'est que le drone ne meurt pas. Le drone ne déserte pas. Le drone ne peut pas faillir. Le drone ne peut pas se sacrifier. Il est au service de sa patrie sans jamais pouvoir ni devoir mourir pour elle. Le drone, d'une certaine manière, est patriote à notre place. Le drone est le contraire le plus pur, le plus parfait du kamikaze. Le contraire du kamikaze, c'est le drone. Le suicide robotisé, bien sûr, ça existera. Mais pour l'instant, ça reste un oxymore.
Alors c'est donc, à vous entendre, une rupture dans l'art de la guerre, le surgissement du drone, c'est ça que vous voulez dire ?
Bah oui, parce qu'une guerre sans courage, une guerre sans danger, une guerre où il n'y a plus de réciprocité, une guerre où l'asymétrie est totale, qu'est-ce que c'est ?
Alors si on regarde le conflit en Ukraine par exemple, on y emploie moult drones, des petits, des gros, est-ce que ce conflit n'est pas déjà asymétrique ?
Oui, mais pour moi il est d'abord un conflit qui n'est pas équitable. C'est une guerre qui n'est pas régulière, qui n'est pas juste. On ne peut pas confondre la disproportion et la symétrie. Pour moi, la symétrie, par exemple, c'est une frappe à distance, quelque chose qui abolit la réciprocité. C'est une attaque face à laquelle une riposte n'a aucun sens. C'est le fait qu'une nation puisse décider d'éliminer un individu isolé, par exemple.
Alors, l'ère du drone annonce une rupture dans l'art de la guerre, si je vous ai bien compris.
Oui, ça va encore beaucoup plus loin, je pense, Dimitri. C'est-à-dire que le drone va tout transformer en guerre. En guerre militaire, si j'ose dire, mais aussi en guerre secrète. Éliminer un individu au nom de la raison d'État. En guerre des gangs, assassiner un adversaire. En guerre du renseignement, en survolant tout et n'importe quoi pour recueillir des informations. En guerre civile, c'est-à-dire une population contre un gouvernement ou une partie de la population contre une autre partie de la population. Et en guerre économique et commerciale, il y a des drones qui viendront survoler votre tête pour savoir quand est-ce que vous allez à la pizzeria ou au cinéma. Donc ils connaîtront les goûts culturels et culinaires que vous avez et viendront vous livrer tout à domicile par votre fenêtre qui suffira d'ouvrir.
Je regarde s'il n'y en a pas un qui nous surveille dans le studio d'Europe 1. On peut ajouter, Yann, en allant dans votre sens, qu'avec un drone, la notion de frontière aussi disparaît.
Mais il n'y a plus de zone de guerre et plus de zone de paix. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de délimitation entre les militaires et les civils, mais ça, hélas, on a l'habitude. Et en fait, une nation pourrait être en guerre à l'insu d'une autre nation par surveillance permanente et petite frappe chirurgicale millimétrique. Bref, avec le drone, c'est la guerre tout le temps et partout. Une guerre éclatée, éparpillée, infiniment ramifiée et ramassée.
Comment ça, ramassée ?
Bah, un seul drone est plus efficace et moins cher qu'une escouade de soldats. En fait, on craint le cybermonde, mais c'est le cible-monde qu'il faudrait craindre.
Cible-monde, bon, c'est pas très heureux comme expression, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Écoutez, c'est pas très heureux, je fais ce que je peux, hein, Dimitri, de bon matin. Mais
désolé,
disons
hein.
Un monde cible, c'est-à-dire un monde dans lequel l'individu sera non seulement surveillé, mais ciblé. C'est-à-dire que le ciblage, pour moi, est à la surveillance que la guerre est à la paix. Le 20e siècle était le siècle de la surveillance, le 21e siècle sera le siècle du ciblage. Un ciblage infiniment précis. Le drone est un détecteur d'attitude, de comportement. Et si vous voulez, il y a un calcul algorithmique qui, une fois décodé, peut déboucher sur une mise à mort en temps réel et l'espace public deviendra en permanence un espace létal. La guerre relevait autrefois du prêt-à-porter, elle se faisait à la louche. La guerre était mal taillée, soit on flottait dedans, soit elle nous boudinait. Avec le drone, on entre dans la guerre sur mesure, la guerre personnalisée, individualisée, la guerre livrée à domicile. Le drone, c'est le délivéro de la guerre, si vous voulez. Demain, il y aura une guerre par personne, autant de façons de faire la guerre qu'il y a d'individus. La guerre viendra vous trouver chez vous, Dimitri, là où vous êtes, à tout moment. Elle vous tuera de manière précise, appliquée, adaptée. En fait, pour que les auditeurs comprennent, c'est que la guerre approximative, c'est fini. Ce n'est plus la guerre sans l'aimer, comme dit Bernard-Henri Lévy, c'est la guerre sans la faire.
Et donc, un fait divers rémois, et voilà ce qu'en fait Yann Moix.
C'est ça, la magie de Reims.
Voilà, ça, c'est tous les mardis sur Europe 1. Et Emmanuel Ducrot, c'est 4 fois par semaine. Quelle chance ! Emmanuel du journal L'Opinion voyage en Absurdie au pays de la fausse viande. Aujourd'hui, McDonald's a discrètement renoncé à vendre aux États-Unis son McPlant. Alors, c'était un burger végétal qui avait été lancé en décembre de l'année dernière, c'est ça, hein ?
Ça avait fait du bruit. Pensez donc, McDo, le roi du hamburger, lui-même produit roi du fast-food américain, laissait entrer le loup dans la bergerie. Un ersatz de steak haché à base de plantes, légumineuses et riz arrangés pour ressembler à l'original. Il y avait en soi quelque chose d'un peu contre-nature dans cette histoire, mais on n'avait pas lésiné sur le marketing chez McDonald's. On décrivait, je cite, « un sandwich qui donne envie de croquer dedans, sa galette juteuse à base de plantes servie sur un petit pain chaud aux graines de sésame avec toutes les garnitures classiques ». Il s'agissait s'adapter à un marché que l'on pensait inexorablement croissant, celui du substitut de viande, pour répondre à la fois aux préoccupations véganes et environnementales. La viande est attaquée pour son empreinte carbone.
Et le McDo, nouvelle formule, finalement, n'a pas trouvé son public. Hein.
Visiblement non, même si McDonald's ne commande pas la fin de l'expérience et ne donne pas de chiffres qui permettraient d'évaluer le succès ou l'échec. Mais à la poubelle, le faux steak, en toute discrétion, on ne le trouvera plus que dans certains pays comme au Royaume-Uni.
Alors derrière la déconvenue de ce McPlant, c'est toute une industrie qui boit le bouillon. Hein.
Oui, à commencer par Beyond Meat, une entreprise qui s'est faite une spécialité de l'imitation viande sous forme de steak, boulettes, saucisses. L'entreprise avait le vent en poupe. Hein. Elle avait signé des contrats avec de nombreuses chaînes avant McDonald's qui toutes ont plus ou moins renoncé à la fausse viande. La coqueluche de Wall Street devait révolutionner le monde de la viande. Elle valait plus de 10 milliards de dollars en bourse en 2019. Sa valeur a été divisée depuis par 12.
Mais alors, rideau sur le steak en toc, c'est ça le message ?
Oh, certainement pas.
Oui.
Pause technique, comme on dit, en attendant de perfectionner les techniques et les textures. Car derrière la bonne conscience que donnent les substituts de viande, plus vert, plus vertueux, plus gentil avec les animaux, il y a un combat de très gros sous et la perspective alléchante de conquérir l'équivalent d'un tiers du marché de la viande en 2040.
Oui, on retrouve dans cette industrie de la viande douce les grands noms habituels du capitalisme.
D'abord les grands noms de la Silicon Valley comme Bill Gates, d'énormes boîtes agroalimentaires qui ont déversé en 2021 plus d'1,5 milliard de dollars dans les viandes à base de plantes ou dans les cultures cellulaires en laboratoire. Tyson, le géant américain des abattoirs, Unilever qui a élaboré le faux Whopper de Burger King, Cargill, mastodonte de la nourriture industrielle américaine, et j'en passe.
Alors, on veut faire mieux pour les animaux, pour la planète. C'est un peu Tricatel, votre histoire, là, l'aile ou la cuisse. Hein.
Oui, cette entreprise de tristes souvenirs. Les critiques de la viande artificielle pointent déjà. Ultra transformée, bourrée d'additifs et de texturants, concoctée sur des paillasses de laboratoire avec une empreinte carbone douteuse. On est loin du petit producteur en circuit court. On devrait peut-être réfléchir aux conséquences quand on veut rabattre son caquet au lobby de la viande. Ce qui se joue maintenant pour l'industrie de la fausse viande, pour se relancer, c'est ce qu'on appelle le narratif ou en bon français le storytelling. Faire oublier un peu ses arrière-cuisines, faire valoir un peu plus ses atouts éthiques, moi j'en mettrais ma main à griller. Ça va se jouer avec des budgets publicitaires colossaux. Et je vais citer pour conclure cette formule de la sociologue de l'INRAE Jocelyne Porcher. La cause animale est dans ce cas-là rattrapée par la cause du capital.
Et il a toujours raison, le capital à la fin, vous le savez, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Yann Moix.
Je pense qu'il faut en venir à la fausse, vraie fausse viande.
Oui, oui.
C'est comme les vrais faux passeports.
Voilà, tiens, vous parliez de drones. Il y a cette scène mythique de Stéphane Bern dans un téléfilm dans lequel il jouait récemment. C'est un mème sur Internet, vous le trouverez forcément. Le meurtre par drone, c'est exactement ce que vous racontiez, Yann. Allez, à suivre, le club de la presse Europe 1.
Stéphane Bern est mort ?
Non, Stéphane Bern n'est pas mort. Stéphane Bern est un tueur. Mais c'est un tueur de fiction, bien sûr. Week-end à Rome, Étienne Daho, vous connaissez. Pas sûr qu'ils y aillent ensemble. François Calfon, Mathieu Bock-Côté, nos deux débatteurs du club de la presse, ils vont débriefer les élections italiennes et la victoire de Giorgia Meloni. À tout de suite.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Lélo, oh, 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 Lélo, rentre en vague et Paris. Soit Paris c'est, soit Paris vrai.
Voilà, ils sont rentrés dans Paris ou dans Rome, les loups. Tiens, vous avez reconnu Serge Reggiani avec presque 44% des suffrages. Victoire nette, massive, sans appel de la coalition de droite emmenée par Fratelli d'Italia et sa patronne Giorgia Meloni, promise maintenant à devenir la première présidente du Conseil italien avec une confortable majorité derrière elle. Ah oui, c'est l'Italie avec 44% des suffrages. Vous avez 237 députés sur 400, 112 sénateurs sur 206. Alors, on n'a pas tout dit de l'événement politique que représente ce résultat qui D'ailleurs, en Italie, n'a rien d'inédit. Faut-il se souvenir qu'il y a un peu moins de 30 ans, Forza Italia, la Liga, les néo-fascistes, donc l'ancien nom de le MSI, l'ancien nom des Fratelli d'Italia, gouvernaient ensemble dès la première moitié des années 90. Meloni, elle fut ministre de Berlusconi il y a 15 ans. Salvini, ministre de l'Intérieur, y compris sous Mario Draghi. Berlusconi, faut-il le présenter, 9 ans président du Conseil. Alors, quels furent les ressorts de cette victoire? Est-ce qu'il faut s'étonner d'en voir nombreux comme ça reprendre l'ère de la mobilisation antifasciste à la façon de Serge Reggiani? C'est exactement ce que le tweet de Sandrine Rousseau qui nous titrait hier « Les loups sont entrés en Italie ». Bonjour François Calfon.
Bonjour.
Ah là, il boue, il a envie de commenter.
Non, mais bon.
Mais bon, quoi.
Intéressant.
Mais bon, bah oui, moi je trouve très intéressant la réaction de Sandrine Rousseau dans cette affaire-là. Vous êtes membre du bureau national du PS. Mathieu Bocoté est là aussi. Bonjour, sociologue,
bonjour.
Essayiste. Bonjour Mathieu. Je vous cite la une de Libé ce matin. Fascisme en Europe, toutes les peurs mènent à Rome, Mathieu.
Il y a une forme de décalage assez fascinante, le commentariat français et la réalité italienne. C'est-à-dire que dans le commentariat français, on aime se faire croire que de nouveau, effectivement, on est à un siècle, ça fait un siècle la marche sur Rome et elle serait de retour d'une manière ou de l'autre. Les fascistes seraient de retour. Le cordon sanitaire viendrait de s'effondrer, nous dit-on. Alors si on regarde la politique italienne en termes italiens, ce qu'on appelle le cordon sanitaire n'a jamais eu la même réalité qu'en France, premièrement. Deuxièmement, dans la mesure où il y en avait un, il est tombé dans les années 90. Ensuite, lorsqu'on parle du bloc des droites, là-bas, on parle du bloc de centre-droit. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le vocabulaire utilisé est décalé pour parler de la réalité italienne. Oui. Et finalement, le concept de post-fascisme que plusieurs semblent avoir appris environ 48 heures dans
Qu'est-ce
le commentaire. Alors, le mot post-fascisme réfère dans la politique italienne au mouvement dans les années 90, lorsque le MSI est devenu l'Alliance nationale avec Gianfranco Fini, et ça représentait une rupture avec l'héritage du fascisme, une volonté de rompre avec ce qui pouvait rester du fascisme dans cette tradition politique. 20 ans plus tard, avec Mme Meloni, quoi qu'on en pense, on peut être absolument contre elle ensuite, la question n'est pas là, elle-même condamne le fascisme et dit « je ne me reconnais en rien là-dedans » et la droite italienne a réglé ses comptes avec ça.
Notamment donc, la dimension raciste, antisémite, etc.
Bien sûr, les lois raciales. Voilà. Et, donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'il y a d'excellentes critiques à formuler contre Mme Meloni. Il ne faut simplement pas se tromper d'époque.
François Calfon, anachronisme des commentaires qui voient la peste brune envahir Rome. C'est vrai qu'il y a un décalage quand même.
Alors, par contre, dans les symboles, après je passerai au monde réel, dans les symboles, vous avez bien la flamme tricolore, qui est la même que celle du Front National et qui était celle du MSI post-mussolinien. Ça, c'est une réalité d'extraction familiale, si j'ose dire. Bah oui, non, mais ça existe, je sais que ça vous dérange. Mais
non,
ça
pas du tout. Moi, j'y vois une provocation de sa part en se disant ça va les faire causer. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça dans la geste de Giorgia Meloni.
Deuxième chose, puisque effectivement, on commente l'Italie comme si ça venait d'advenir. Ça ne vient pas d'advenir, ça a été dit, donc je ne le reprends pas. Mais j'ai envie de dire que les causes qui produisent, les causes sur le fond, qui produisent cette ascension au pouvoir des droites, de l'alliance des droites, de l'extrême droite et de la droite, notamment la question de l'immigration. Je rappelle que M. Salvini, avec des résultats tout à fait contrastés, puisque l'immigration n'a pas cessé, était ministre de l'Intérieur de l'Italie. Deuxième élément, ne m'attendez pas ce matin, moi, homme de gauche, à valider cette alliance. Deuxièmement,
Je m'attendrais juste à ce que vous me disiez, mais pourquoi les électeurs italiens, d'après vous, François, ont gagné comme ils l'ont fait?
Parce qu'il y a une crise. Alors, très bien, vous m'amenez sujet de fond. Si vous voulez, l'État italien, en fait, n'a jamais existé. C'est-à-dire que l'unité italienne et la gouvernance italienne centrale, elle est de papier. Et il n'y a aucun gouvernement qui ne s'est imposé. On est dans une longue dérive. Si vous regardez les fondamentaux économiques de l'Italie, l'Italie est dans une situation tout à fait catastrophique. Alors vous allez dire, ce n'est pas la première fois. Et finalement, la résilience italienne ne vient pas de l'État. Donc on essaye le gouvernement des technocrates, ça ne fonctionne pas. On essaye ces droites, vous avez bien fait de rappeler qu'il y avait M. Berlusconi. Maintenant, le bateau a gité du côté de Mme Meloni. Mais au fond, c'est le même casting, d'une certaine manière. Il y a une permanence de la vie italienne. Et ils seront sortis comme l'alliance improbable de 5 étoiles et
donc
de Salvini.
Donc, pour vous, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'État italien. Je vois pas tellement quel est le rapport avec la victoire de Giorgia Meloni, en fait.
Qu'on essaye des gouvernements, et on a déjà essayé l'alliance des droites.
D'accord. Donc, les Italiens essayent toutes les formules qui leur sont proposées,
sans conviction, puisque je rappelle qu'il y a eu un taux d'abstention à 36%. Puisque vous voulez le parallèle avec la France, parce que en
France, on commande toujours à l'extérieur en fonction de soi-même. Mm-hmm. Par contre, moi, ça m'indique une seule chose, c'est que l'alliance des droites, et c'est un sujet qui vous passionne et qui vous fascine, des droites en France peut avoir lieu. Et si cette jonction qui a été faite en Italie est faite en France, alors il y a l'assurance, et moi, au lieu de crier au loup, je demanderai à la gauche de se ressaisir, il y a l'assurance que cette droite-là,
moi,
ces droites-là peuvent arriver en
France. C'est qu'il y a encore des gens qui
en
disent les Italiens ont mal voté. Moi, j'ai entendu ça. Non, pas vous, mais Laurent Berger l'a dit par exemple à ce micro. Je trouve ça quand même stupéfiant d'entendre qu'on
mais
puisse...
on a le droit de pas être d'accord quand même. Hein.
Voilà,
oui. Mais alors, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la comparaison possible avec la France, c'est qu'on oublie que la possibilité d'alliance des droites, pour reprendre la formule, dépend largement du système électoral. Or, le système électoral italien, comme le système électoral, soit dit en passant, suédois, dont on parlait il y a quelques semaines, oblige les partis à s'unir, à coopérer. Et quand vous êtes obligé de coopérer pour créer un bloc, pour accéder au gouvernement, ça vous amène à peser un peu moins sur le registre de la vertu, de la vertu politique, genre nous refusons toute alliance avec ces gens. Et la coopération, ça oblige à faire des alliances pragmatiques autour d'un programme de gouvernement où il y a un peu moins de métaphysique et un peu plus de propositions politiques. Premier élément.
Mais elle plaide pour un présidentialisme fort, une élection du président de la République à la française. Oui, mais est-ce qu'elle y a intérêt?
Mais sans pour autant condamner le régime proportionnel, parce que quand on voit un peu l'histoire politique italienne, après l'effondrement de la démocratie chrétienne au début des années 90, c'est devenu un système politique avec une très forte capacité d'innovation, appelons ça comme ça, dont un nouveau parti peut facilement émerger, peut facilement... Exactement. Mmh. Et aujourd'hui, frère d'Italie. Oui. Donc, il y a cet élément-là. L'envers de ça, soit dit en passant, on le dit, c'est le gouvernement technique. C'est-à-dire, il y a une très grande représentativité, mais de l'autre côté, lorsque ça ne fonctionne pas, on se dit gouvernement technique. Donc, je ne pense pas qu'on peut rabattre l'exemple sur la France, ne serait-ce qu'à cause de la question du système électoral. Ensuite, sur le côté mal voté, moi je suis fasciné par l'arrogance de l'empire européiste et de ceux qui d'une manière ou de l'autre sermonnent les peuples en disant voilà comment vous allez bien voter et si vous ne votez pas de la bonne manière, on vous punira. C'est ce qu'a dit Mme von der Leyen et c'est ce que disent tous ceux qui aujourd'hui en appellent à des sanctions quasi préventives contre le vote des Italiens.
Voilà, alors, François Calfon. Sur ce sujet-là, moi je partage pas ça, mais il faut, quand on va chercher la paille dans l'œil du voisin, aller regarder la poutre qu'on a en face des yeux. Et la poutre, c'est vrai, c'est la gestion de l'Union européenne et notamment de la Commission européenne qui n'est pas exempte de critique, parce que dans les deux leviers de vote, en dehors de ce que j'appelle finalement l'ingouvernabilité italienne, il y a la question de l'immigration. Donc j'ai dit que pour moi, Salvini n'avait pas montré sa compétence.
Oui, c'est vrai aussi, qu'il a fait beaucoup de cinéma,
venir là, on a peu de temps, et il y a la question européenne. Et d'une certaine manière, l'Europe, en tout cas la Commission européenne, ne peut pas se comporter comme s'il n'y avait pas eu le Brexit, comme s'il n'y avait pas finalement des forces centrifuges, notamment à l'Est, et qu'il faut changer de modèle, et qu'un modèle finalement moralisateur qui mettrait au banc un pays comme l'Italie, qui fait partie des pays fondateurs, poserait difficulté. Pour autant, et je le dis, la provocation, puisque vous dites qu'ils sont finalement assez pragmatiques, la provocation italienne vis-à-vis de l'Union européenne, alors qu'ils attendent un plan de refinancement de plusieurs centaines de milliards d'euros, n'a pas de...
Mais vous avez regardé un petit peu
pas fonctionnel non plus.
La carte du vote très frappante, c'est la même qu'on a dans toutes les démocraties aujourd'hui. Vous avez les centres des grandes villes qui ont voté à gauche, au centre, pour les formations pro-européennes. Et pour Giorgia Meloni, les votes de la périphérie, des ouvriers, des artisans, des commerçants, des petits patrons.
Populaire, comme on dit. L'archipélisation des pays.
Voilà. Et victoire aussi de Fratelli d'Italia sur les terres rouges, les terres historiquement de gauche de Toscane, d'Émilie-Romagne. Voilà. Comme on l'avait vu avec Boris Johnson dans le nord de l'Angleterre, dans les fameux Red Walls.
Mais de ce point de vue, la recomposition politique qu'on voit partout en Occident est aussi une recomposition sociologique. Le critère, le clivage qui constitue la vie politique aujourd'hui n'est plus celui du 20e siècle, entre d'un côté les artisans, les professions libérales qui voteraient à droite et les ouvriers qui voteraient à gauche. La base électorale aujourd'hui de ce qu'on appelle à tort ou à raison les populismes, ce sont normalement des ouvriers qui ont un fort, ou en fait les catégories populaires, qui ont un fort sentiment national, qui se sentent menacés avec raison par l'immigration massive, aujourd'hui par l'Europe, et qui trouvent dans le cadre national le cadre protecteur qu'ils cherchaient hier ailleurs. Mmh. Et je pense que cet élément, ce désir de protection, il est très fort. Ensuite, un petit mot, un tout petit mot à nouveau sur la Commission européenne. On va se retrouver un jour dans un moment où les technocrates de l'Union européenne seront seuls à prétendre représenter l'Europe alors qu'aucun peuple ne leur fera plus confiance. Ouais. C'est une élite qui aujourd'hui en vient se retourner contre ses peuples et qui n'a qui a toujours la même conclusion. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut davantage d'Europe. Manifestement, ça ne fonctionne pas.
Mathieu, d'un mot, moi, je pense que l'antidote, finalement, à la montée de ces populismes d'extrême droite, d'inspiration d'extrême droite, c'est en revenir à une gauche populaire. C'est-à-dire que le débat.
C'est ce que dit Raphaël Glucksmann dans l'IB ce matin.
Oui, mais moi,
exactement.
Je vais te dire, bon, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit le plus qualifié pour le dire. Mais très franchement. Dit, malgré tout. Tant mieux pour lui qu'il ait découvert la Picardie et non pas New York. Mais ce que je veux dire, c'est que le débat qu'il y a eu entre M. Roussel et M. Mélenchon, de manière un petit peu caricaturale, est juste. C'est-à-dire que si vous stigmatisez ceux qui ont une voiture, ceux qui mangent de la viande, ceux qui font des barbecues,
qui vont à la chasse.
Culturellement, qui vont à la chasse, culturellement, vous vous mettez du côté, finalement, d'une certaine élite mondialisée et vous condamnés à n'avoir que le vote des centres-villes et des jeunes. Et vous excluez, puisque vous les désignez comme des beaufs, vous excluez de fait l'électorat populaire qu'il faut au contraire reconquérir.
Merci François Calfon, merci Mathieu Bocoté, merci à tous les deux messieurs. À la semaine prochaine, 8h57. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Ouais, remasqué à ce que je vois.
Remasqué, cas contact, zéro risque.
Quelle culture média dans un instant, dites-nous tout.
Alors, on va recevoir le directeur général délégué de l'Altis Média. En gros, c'est l'entité qui chapeaute BFM TV. Pourquoi ? Parce que BFM lance sa 10e antenne régionale demain. Ça s'appelle BFM Normandie et ils ont des chiffres globaux absolument prodigieux. Au sommaire également, une nouvelle émission qui s'appelle L'Entre-deux. C'est une youtubeuse qui débarque sur l'UMNI. On se dit que c'est l'alliance de la carpe et du lapin puisque ça a été fait un petit peu contre ce genre d'influenceuse. C'est très, très, très intéressant. Elle sera avec nous. Elle s'appelle Alix Grousset, je l'ai dit. Et puis la comédienne Catherine Fraud pour une pièce de théâtre qu'elle joue aux côtés de Michel Faux lorsque l'enfant paraît. Pourquoi elle est intéressante cette pièce? Parce qu'elle a été écrite par André Roussin en 1950 et il y a un type qui est sous-secrétaire d'État et qui s'occupe de la fermeture des maisons closes et sanctionner encore davantage l'avortement. Évidemment, sa femme tombe enceinte.
Ah, intéressant, ça résonne en 2022. Voilà. Merci Philippe Vandel, excellente journée. On se retrouve demain matin, 7h sur Europe 1. Romain Desarbres à midi pour Europe Midi. Bye bye.